une parodie, où on voit facilement que si les mots désignaient des choses, ils ne serviraient à rien. On parle de choses qui ne sont pas là, on parle des êtres absents, on parle de notions, de termes génériques, de concepts qui sont tous des réalités invisibles ou imperceptibles. C'est le sens de la fameuse formule de Mallarmé, je dis une fleur et hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour, etc. Je désigne l'absente de tout bouquet. Ou encore les développements, j'aurai pas le temps de l'aborder aujourd'hui, mais les développements qu'on trouve dans le second discours de Rousseau, et où il montre la même chose par une autre voie de démonstration, où il suppose que s'il n'existait pas de langage, le premier langage qui s'imposerait, ce serait un langage qui désignerait chaque chose singulière qu'un homme à l'état de nature aurait sous les yeux, et il n'a pas de peine à montrer que tel langage non seulement inutile, mais impossible, et qu'aucune langue ne peut désigner des choses singulières. Or, ces objets absents dont nous parlons, la liberté, la cause, la force, l'Amérique, Aurélia, l'arbre, etc., est-ce que ces objets existent vraiment ? De l'existence ou non de ces objets dépend le statut de la vérité. On en a beaucoup discuté dans l'histoire de la philosophie, de savoir si les concepts sont des objets réels ou nominaux, si ce sont des objets ou simplement des instruments de pensée, etc. Mais surtout, on ne les connaît que par les mots. Tout ce qu'on connaît d'eux d'abord, c'est que les mots en parlent. Dans le second discours, Rousseau montre aussi qu'il y a une sorte de cercle difficile à briser entre le langage et la pensée. Est-ce que c'est la pensée qui précède le langage ou est-ce que c'est le langage qui suscite la pensée ? Donc il suffit que je dise une fleur et je vois, non pas par les yeux, mais par l'esprit, je vois l'absente de tout bouquet, et on aura un peu de peine à dire où on la voit, dans la pensée, au point qu'on peut penser que les mots pourraient être capables de susciter ces objets mentaux. Les mots peut-être affectent la pensée, créent des objets de langage. Il y a une puissance poétique du langage, et Mallarmé le montre dans son fameux poème où il utilise Anapax, le ptix. Il a fait exprès de chercher un mot qui n'existe dans aucune langue pour montrer que le mot peut être prononcé, le verbe a un sens, bien qu'il ne désigne rien. Donc cette puissance poétique est bien sûr concurrente de la vérité philosophique. Si les mots engendrent le concept qu'ils désignent, qu'est-ce qu'il reste de la valeur scientifique du langage qui prétend, pour la philosophie, dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire comme elles précèdent leur formulation dans un discours. Le problème, si on veut évaluer la validité des concepts, si on veut savoir si leur réalité est forgée par la langue ou bien trouvée par l'esprit, c'est que dans tous les cas, il faut passer par le langage. Que nous dit le langage lui-même des objets qu'il désigne ? Il semble bien, en dépit de ce que nous dit Mallarmé, que le langage ordinaire ne se vante... Enfin, Mallarmé serait d'accord d'ailleurs sur le langage ordinaire, mais le langage ordinaire ne se vante pas d'être poète. Nous pensons, quand on parle ordinairement, que les choses que nous désignons existent. Le chat, la nourrice, nous dit Locke, l'âme même... Quand on lit une phrase, nul n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, etc. Le droit, la force, donc on désigne en parlant, où sont-ils ? Est-ce que les mots nous font voir leur existence ? Alors, on peut faire l'hypothèse qu'ils la créent, mais alors pourquoi les mots nous font-ils croire à leur indépendance ou à leur transcendance réelle ? Il faudra de toute façon... expliquer pourquoi nous avons tendance à penser que les choses dont nous parlons existent indépendamment de nous-mêmes. Donc, est-ce que c'est le langage qui invente cet effet de vérité, qui nous fait croire à cette vérité pour s'en trouver lui-même plus véridique ? Comment le savoir, puisque de toute façon, il faudra le savoir par le langage lui-même et à partir du langage ? Comment éprouver la vérité avec l'instrument du mensonge ? En tout cas, avec l'instrument qu'on va maintenant soupçonner peut-être de mensonge ou de poésie. Donc comment m'assurer, à partir des mots, de leur conformité à un modèle que les mots ont pris soin de déclarer invisible ? Donc On va essayer de résoudre ce problème essentiellement à partir des textes de Platon, mais pas seulement. Donc c'est évidemment un peu délicat, mais on va s'attacher particulièrement au verbe être, puisque le verbe être, dans les langues indo-européennes, concentre cette prétention du langage à exprimer la préexistence d'une réalité indépendante, extérieure au langage, et de cette conception découle notre modèle de la vérité, c'est-à-dire une définition de la vérité comme conformité de la pensée ou du langage à ce qu'ils imitent. Donc on va essayer essentiellement, mais pas seulement, d'examiner si le verbe être a une valeur de création, il nous fait croire à cet être indépendant, ou une valeur d'imitation, autrement dit s'il désigne un être qui existe vraiment. Donc dans un premier temps, je vais repartir du début du Théétète, je reviens à mes origines, tout à fait au début, hein, dans la première hypothèse de Théétète, qui est très célèbre, celle où Théétète répond à Socrate que la connaissance, c'est la perception. Socrate félicite d'abord Théétète de cette hypothèse en lui disant bah, « c'est vraiment intéressant cette fois-ci, parce qu'il a fait d'autres réponses malheureuses juste avant ». Elle lui dit « Bon, cette fois-ci, tu réponds quelque chose d'intéressant et d'important. Tu réponds la même chose que ce que dit le grand Protagoras dans son livre sur la vérité. Tu dis que l'homme est mesure de toute chose. Dire la connaissance, c'est la perception, c'est la même chose que dire l'homme est mesure de toute chose. » Et là-dessus, Socrate se met à examiner les conséquences avec Théétète jusqu'à, et c'est assez long, ce que l'hypothèse soit invalidée. Il lui dit, en effet, si tu... Je suis en train de chercher le passage, mais je vais le retrouver. Si tu... c'est au début. Si tu dis que la connaissance, c'est la sensation, tu dis que ce que tu éprouves, c'est ce qui est. Donc, par exemple, si tu trouves en ce moment même que le vent est frais, tu vas dire le vent est frais. Et si toi, moi qui marche près de toi, je trouve que le vent est chaud, je vais dire le vent est chaud. Et évidemment, dans cette hypothèse, si la connaissance, c'est la sensation... Ben, on ne peut pas penser que l'un a raison et l'autre a tort. Les deux ont raison. Il est légitime de dire que le vent est froid ou qu'il est chaud selon ce qu'on éprouve. Et donc, ce qui est, c'est mal dit. Le verbe être, au fond, est mal employé. Ça vient juste après ce passage. Il faut plutôt employer le verbe apparaître, parce que ce qui est, c'est ce qui apparaît à l'un ou ce qui apparaît à l'autre. Donc il y a en réalité autant de monde qu'il y a de sujets de perception, et les choses ne sont pas au sens où elles auraient une existence indépendante et stable en dehors des sujets. Les choses apparaissent, parce qu'une apparition, c'est une relation à un sujet. Les choses apparaissent comme elles sont. Ça ne veut pas dire qu'elles seraient en dehors de moi et puis qu'elles apparaîtraient à moi d'une façon particulière. Ça veut dire qu'elles ne sont rien d'autre que ce qu'elles m'apparaissent. C'est le contraire de la thèse sceptique, en fait. Les choses sont telles qu'elles se livrent à un sujet et leur être est entièrement livré, entièrement épuisé dans leur apparition. Donc, rigoureusement, on ne devrait pas dire, et c'est ce que dit la suite de ce passage, je ne vais pas retrouver parce que je ne l'ai pas noté parce que je le connais par cœur, mais bon, voilà, je ne le trouve plus. Voilà. Ainsi, toujours, la perception en rapport à ce qui est, entre guillemets, et en sa qualité de connaissance, est toujours infaillible. Donc, Socrate dit un petit peu plus loin, « Je m'en vais t'exposer une théorie qui ne manque pas du tout d'intérêt. C'est, dit-on, qu'il n'y a rien qui soit individuellement lui-même et en lui-même, rien non plus que tu puisses désigner à bon droit, pas davantage qualifié d'aucune façon que ce soit, qu'au contraire, si tu attribues la qualité de grand à un objet, c'est aussi bien petit qu'il apparaîtra, etc. Et » donc, il lui montre bien sûr que le monde est variable en fonction de la manière dont on le perçoit, en fonction de sa propre disposition de l'instant. Donc il n'y a pas de stabilité et que rigoureusement, si on devait bien parler, on ne devrait pas employer le verbe être, mais seulement le verbe apparaître et même à terme, il va nous dire, le verbe devenir. Dès que j'ai employé le verbe être, je me trompe, puisqu'une chose qui est... par exemple, il va prendre un peu plus loin l'exemple du vin. Si le vin est doux, un peu plus tard, si je suis malade, le vin m'apparaît amer. Donc, à peine j'ai parlé que le verbe être est déjà falsifié. Et on peut bien sûr prendre des exemples de choses qui deviennent encore plus rapidement. À peine j'ai dit cette, cette fleur est épanouie, qu'elle est en train de se faner, qu'elle ne l'est plus. Donc, je ne peux employer, au fond, aucune qualification stable ou durable. À peine j'ai dit quelque chose, c'est déjà faux, parce qu'à la fin, ce qui est invalidé, c'est le verbe être. Donc, Protagoras, puisque la thèse qui est examinée, c'est en fait celle de Protagoras, l'homme est mesure de toute chose, conteste ou contesterait qu'on puisse employer le verbe être rigoureusement, parce qu'on ne peut employer que le verbe devenir. On ne peut pas appeler la couleur. Il prend plein d'exemples par la suite, hein, c'est tout le passage qui suit. Il n'y a pas de couleur blanche, indépendamment du rôle de cette couleur, le temps qu'elle le saisit. De la même façon, on ne pourra pas dire qu'une chose est blanche parce qu'elle pourrait apparaître autrement à un animal, à un chien. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de monde. Chaque sensation est singulière, au point même qu'à peine je voudrais la désigner, qu'elle a déjà disparu. C'en est une autre à la place, qui est différente. Donc, il faudrait, pour pouvoir parler, courir après le changement et employer un mot pour chaque sensation singulière, ce qui est totalement impossible. Donc, toute la suite du texte, je ne développe pas trop, mais développe cette thèse d'une espèce de mobilisme universel qui tend à contester l'usage du verbe être, mais au nom du fait qu'il n'existe pas d'être, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de chose ou d'objet, c'est-à-dire pas de substance. C'est toute une critique de la notion de substance dans cette première partie du Théétète, parce qu'il n'y a pas d'unité substantielle. Les noms, bien sûr, sont faux aussi, puisque quand j'emploie un nom, je stabilise une identité qui n'existe pas. Le chien n'est pas le même à midi ou le soir, selon qu'il apparaît de face ou de profil. Ce n'est pas la même sensation. Donc, dans le passage, Socrate dit on pourrait aussi mettre dans le même sac Héraclite, puisque ce n'est pas le même soleil qui se lève chaque matin. Bien sûr, hein, puisque si je perçois, si les choses sont uniquement ce que j'en perçois, elles sont entièrement réductibles à leur perception, ce n'est pas le même soleil, hein, ce n'est pas exactement la même sensation, moi je ne suis pas exactement disposée de la même façon, les couleurs sont un peu différentes, etc. Donc, s'il n'y a que du devenir, il n'y a pas d'être, le verbe être semble falsifié, il semble faux, et on a affaire à un monde émietté où la réalité est insaisissable parce qu'elle est continue en fait. Les choses sont fluides, singulières, fugitives. Elles ne sont pas objets de langage. Dès que j'emploie un nom, c'est pas que le verbe être, bien sûr, derrière, c'est n'importe quel mot. Dès que j'emploie un nom ou un adjectif, je me trompe, je dis quelque chose qui ne colle pas à la réalité. Le verbe être ne désigne rien, l'être n'est pas. On a affaire à des passages d'un état transitoire à un autre. Mais il ne faudrait pas en conclure que Protagoras aussitôt a tort ou que le langage est inutile. En réalité, si le langage semble ne pas convenir avec la réalité, c'est parce qu'il n'est pas du tout fait pour dire la réalité. Ça, c'est le désir de Socrate, c'est un désir de philosophe, mais le langage ne sert pas à dire des choses indicibles. Il n'est pas fait pour dire des sensations particulières ou singulières qu'on ne pourrait jamais saisir, qui ferait que le langage serait toujours à faux. Le langage ne désigne pas des choses, en tout cas il n'est pas fait pour désigner des choses, Protagoras ne nous pousse pas à nous taire et à contempler le devenir. On a le droit de parler, mais pas dans la prétention de dire ce qui est, puisque ça n'existe pas. C'est nous, c'est Socrate, qui a la croyance que des choses existent. Or, cette croyance est précisément produite par le langage. C'est le langage qui crée l'illusion qu'il existerait un soleil ou qu'il existerait une fleur. En réalité, sous la désignation du soleil, il y a une multiplicité de sensations variées et différentes qui éventuellement peuvent se ressembler, mais qui sont tout de même singulières. Mais comme il serait impossible de les désigner, il est plus commode d'utiliser des noms qui n'ont pas d'autre valeur que de permettre une communication entre les hommes et qui, si on les prend au sérieux, nous font croire à l'existence de choses stables, une espèce de bloc de réalité qui correspondrait aux mots. Donc le même mot donne bien sûr l'illusion de la même chose. Ce sont les mots qui produiraient l'illusion de l'identité, donc de l'être. Et Socrate, au moment même où il est en train de tenter de réfuter la thèse de Protagoras, se prête le flanc à une critique de sa propre illusion, puisque c'est Socrate qui est dupe du langage et qui donne une valeur au verbe être. Socrate hypostasie une essence qui n'a pas d'autre réalité que sémantique, en pensant que les mots engendrent, comme s'il avait l'illusion que les mots engendraient des choses, alors que, aux yeux de Protagoras, les mots engendrent des effets dans les esprits. Ils nous font croire ou nous font voir ce qu'ils désignent, mais cette chose en tant que telle n'existe pas. Donc, les mots ont cette puissance, dans l'hypothèse de Protagoras, de nous faire voir le réel et la façon dont ils le peignent. Et Socrate est un bon témoin de cette puissance des mots, puisqu'il en est dupe. Les mots ont un pouvoir de suggestion, et nous finissons par croire que nous voyons le soleil, alors que nous voyons des sensations très diverses. Nous finissons par croire que nous buvons notre café, on dirait que c'est le même. Et en fait, c'est vraiment pas le même que celui d'hier. C'est la même chose pour le café, pour le soleil, c'est pas la même sensation, donc c'est pas la même chose. Donc, il ne faudrait pas en conclure que le langage est faux, qu'il est mensonger, que la connaissance est illusoire. Il y a un mensonge seulement si on croit, si on est dupe, si on a cru qu'il fallait y croire. Il y a de mensonge que du point de vue de l'illusion. Il n'y a pas de mensonge parce que le langage ne prétend pas refléter la nature des choses, c'est tout simplement impossible, mais il prétend lire la réalité. Il prétend la rendre commode, communicable. Il découpe la réalité de façon utile et il ne prétend pas faire autre chose. Donc, on est très près de thèses qui pourraient tirer vers Nietzsche. C'est la culture qui modèle la réalité à travers la langue, notamment. Les concepts sont forgés par une espèce de puissance vitale. On n'est pas très loin de ça chez Protagoras, on va le voir. Et par opposition, Socrate est naïf. Il croit à des substances et il reproche à Protagoras de les défaire avec son langage plié aux opinions et aux appréciations. Mais s'il n'y a que des appréciations, eh bien la vérité, c'est-à-dire la valeur de la parole, n'est pas dans une conformité. En fait, vous repensez la vérité. Donc c'est un petit peu plus loin un passage. Donc Socrate, de façon très complexe, va se faire objection à lui-même en faisant parler Protagoras, qui prend, il change de camp, il se met à parler même un langage direct et il dit à tes têtes, mais tu crois que Protagoras se laisserait avoir par un argument aussi facile? Non, mais tu sais ce qu'il te dirait. Il dirait, Socrate, tu te moques un peu de moi, là, c'est toi qui fais le sophiste. Et dans ce passage, c'est un passage intéressant, c'est en 166D, ça commence à peu près. C'était tombé au capes, l'agrégation interne, un texte tombé à l'agrégation interne à l'écrit il y a quelques années. On voit, c'est le plaidoyer de Protagoras, on voit Protagoras défendre une certaine idée de la vérité. Donc juste avant, en fait, Socrate a accusé Protagoras de niveler la connaissance, de détruire l'idée de compétence, puisque bien sûr, si c'est à chacun son opinion, personne n'a raison sur personne, donc on voit mal comment on pourrait enseigner, au nom de quoi on pourrait enseigner. Socrate pense être plus malin que Protagoras, en lui disant, mais dis donc, au nom de quoi tu parles alors toi? Si moi je pense ce que je pense, c'est mon opinion, donc j'ai raison sur toi, et toi tu as raison, mais sauf que moi j'ai deux fois raison, parce que j'ai raison aussi dans mon idée à moi. Et Protagoras lui dit, mais Socrate, là tu joues sur les mots, je ne nie pas du tout qu'il existe un savoir. Je pense qu'il y a une hiérarchie des compétences, et je ne brouille pas la définition du savoir. Donc il va restituer une notion de savoir, et à certains égards, si on veut, de la vérité, mais évidemment ce n'est pas la conception de Socrate, c'est-à-dire celle d'une vérité consistant en une conformité à un réel extérieur. La vérité, pour Protagoras, elle n'est pas figée, hiératique. Donc le passage commence à peu près de la façon suivante. L'existence d'un savoir et d'un savant, tant s'en faut que je la nie. Mais seulement celui que j'appelle un savant, c'est l'homme éventuellement capable d'opérer pour tel ou tel d'entre nous tel changement qui lui fasse apparaître et être bonne les choses qui actuellement lui apparaissent et lui sont mauvaises. Ainsi, rappelle-toi en effet ce qui se disait précédemment de l'homme qui se porte mal et pour qui ce qu'il mange apparaît et est amer, tandis que cela est et apparaît à l'opposé pour celui qui se porte bien. Or, à aucun de ces deux hommes, il ne faut attribuer un savoir supérieur à celui de l'autre. Ce n'est pas possible, en effet. Et il ne faut pas non plus accuser d'ignorance le malade parce qu'il en juge comme il faut, comme il fait, pardon. Tandis qu'on attribuerait au bien portant le savoir parce qu'il en juge différemment. Mais ce qu'il faut, c'est opérer sur le malade un changement de sens opposé, car l'autre manière d'être est meilleure. C'est ainsi, d'autre part, que l'éducation consiste à opérer un changement qui fait passer d'une certaine manière d'être à celui qui vaut mieux, à celle qui vaut mieux. Mais tandis que ce changement, le médecin l'effectue au moyen de drogue, c'est par la parole que le sophiste l'effectue. Bien sûr, quelqu'un qui juge faux, personne ne l'a jamais fait juger vrai par la suite. Il n'est possible en effet ni de porter un jugement sur ce qui n'a point d'existence, ni de juger différemment de l'impression dont on se trouve être actuellement le sujet. Or, cette impression est toujours vraie. Mais à mon avis, tandis que certains, en raison de la manière d'être d'une âme en mauvaise condition, portaient des jugements qui sont apparentés à ce que leur âme est elle-même, une âme en bonne condition a fait porter des jugements d'une façon différente. Ce sont là précisément les représentations que par ignorance certaines gens appellent vraies. Quant à moi, je les appelle meilleures, les unes que les autres, mais elles ne sont nullement plus vraies. Quant aux savants, je suis bien loin, Socrate, mon ami, de les traiter de grenouilles, parce que juste avant, la question était de savoir comment perçoivent les grenouilles, etc. Mais quand il s'agit de personnes, je les nomme des médecins, et quand il s'agit de plantes, des cultivateurs. Bon. Donc il lui dit, il y a bien, alors on ne peut pas parler de vérité au sens Socrate l'entend, c'est-à-dire une opinion qui serait plus vraie que l'autre. Si je suis malade, je trouve que le miel est amer. Et celui qui est bien portant n'a pas raison sur celui qui est malade. Mais en revanche, on peut dire qu'il y a une des deux opinions qui est meilleure que l'autre. Et en ce sens, il existe un savoir, une compétence, comme celle du médecin ou du cultivateur, qui consiste à faire passer de l'état de maladie, qui est un état amoindri, un état où l'opinion est moins bonne, un état meilleur, où l'opinion est meilleure. Je vais essayer d'expliquer de la même façon. Le cultivateur, c'est celui qui fait passer les plantes d'un état où elles seraient étiolées à un état où elles seraient épanouies. Et il étend, bien sûr, cette idée aux éducateurs, que sont les sophistes, et aux orateurs. De leur côté, dans les cités, les orateurs qui ont du savoir et du talent font que, pour les cités, les bons principes sont substitués aux mauvais dans le renom d'être juste. Car tout acte qui éventuellement a pour chaque cité renom d'être juste et beau, cet acte effectivement l'est aussi pour elle, tout le temps qu'elle lui attribuera cette qualité. Donc les bons orateurs, ce sont ceux qui font passer la cité d'une réputation qui est d'être mauvaise ou injuste à une cité qui prospère, qui a bonne réputation, qui passe pour juste et dont le prestige s'étend aux autres cités. L'éducateur, c'est un savant homme. Il a le mérite de recevoir beaucoup d'argent parce qu'il fait passer d'opinions moins bonnes à des opinions meilleures. Alors, il faut expliquer un petit peu ce que c'est qu'une opinion plus faible ou moins bonne et ce que c'est donc ce savoir, cette compétence du médecin. Donc, le médecin, il n'a pas de compétence parce qu'il aurait une connaissance du bien du corps qui serait une essence immuable, comme le suppose Socrate. Pour Protagoras, il traite Socrate de naïf dans le passage. Ce serait une espèce d'hypostase enfantine des contours du langage. Le médecin, c'est celui qui est capable de rétablir le malade dans un état où il jouit mieux de la vie, où il juge mieux des choses, donc d'une façon qui lui est plus avantageuse. Et la santé, ça se reconnaît. Ça se reconnaît comment ? Ça se reconnaît à l'intensité d'une manifestation. C'est parce que je me sens mieux. Le bien n'est pas ailleurs. Donc, vous voyez, ce n'est pas une notion ou un être, une essence suspendue au plafond. C'est l'épreuve d'un épanouissement visible. Et c'est l'opinion qui en est le témoin. Une appréciation. Je trouve que je vais mieux. Donc la santé, c'est une force. Et comme toute force, elle se mesure à son efficacité. Donc, Protagoras nous montre qu'il peut exister une forme de vérité, en tout cas de valeur du langage, qui s'éprouve à son succès. Le discours savant, c'est le discours qui marche. C'est le discours qui peut davantage. Il y a une identification entre le savoir et le pouvoir. Donc, comment est-ce qu'on distingue un énoncé d'un autre, lequel vaut plutôt que l'autre ? Et pourquoi tous ne se valent-ils pas, puisque c'est ce qu'il défend ? Ce qui fonde la compétence d'un discours, qui l'autorise à prévaloir sur un autre, c'est sa capacité à produire des effets favorables, à donner lieu, comme il le dit très bien, à des représentations efficaces, épanouissantes, de telle sorte que les choses apparaissent comme bonnes, avantageuses, ça entraîne des conséquences fécondes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une cité juste ? C'est une cité puissante, dont on parle bien, dont on pense du bien. Plus il y a des hommes qui pensent du bien de la cité, ben, mieux elle se trouve et mieux elle est. En réalité. C'est le prestige des États dont nous parle Protagoras. Enfin, c'est Socrate qui parle, en fait, mais au nom de Protagoras. Donc, le discours qui marche, oui, c'est une conception du discours, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, qui n'est pas du tout abandonné. On en parle tout le temps, même nous-mêmes. C'est le discours qui marche, le discours du psy, qui fait qu'on ne se soucie pas trop de savoir si c'est vrai ou pas. Ce qui compte, c'est qu'on aille mieux. Ou le discours politique, hein, qui est le discours qui fait que quel est le discours qui va relancer la croissance, qui va faire donner confiance, qui va faire qu'on va investir. Et le discours économique, bon, c'est le discours qui va relancer les investissements. Le discours qui nous redonne le moral. C'est une conception de la vérité qui se mesure à ses effets. Voilà, c'est... Celui qui sait, c'est celui qui peut faire. Donc les mots qui reflèteraient l'immutabilité de l'ordre des choses, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Ça ne serait pas très utile. Les mots vrais, je ne sais pas si on peut employer le mot vrai, parce qu'il le conteste, hein, ici, il conteste le terme. Enfin, en tout cas, les mots qui ont une valeur, c'est ça qu'on cherche, qui sont les bons mots, c'est ceux qui produisent des effets, parce qu'ils nous font voir les choses sur le fond indifférent du flux du devenir. Ils nous font voir les choses comme il faut les voir pour être le meilleur. Donc, pour Protagoras, le langage est essentiellement poétique, au sens étymologique du terme. Et l'éducation, qu'est-ce que c'est que l'éducation ? Ben, on éduque bien son enfant, non pas quand on lui apprend des vérités en soi, c'est quand on lui donne les moyens de réussir. C'est la thèse de Protagoras. Même l'école dit souvent ça, j'entends souvent ça dans les conseils de classe, moi. Est-ce qu'il va réussir ? On ne sait pas très bien quoi, ce qu'il va réussir, mais... C'est la question qu'on va poser Socrate, hein, mais pour Protagoras, pour les sophistes, on sait ce qu'on réussit, ça se voit, ça se manifeste. Quand on a réussi, c'est visible. Et d'ailleurs, on a bonne réputation. Donc vous voyez, le langage a cette puissance de nous faire voir ce qu'il dit. On voit, dit Mallarmé, les bleus angélus, on voit... les cheveux blondiseux, on voit, ou on entend même le bruit de la pluie dans la poésie de Verlaine. C'est efficace, on ne peut pas nier qu'il y a cette dimension de langage. Hein. Platon ne le nie pas d'ailleurs, il va simplement essayer de soutenir qu'il y a un autre usage du langage et que c'est sa véritable vocation. Donc je ne développe pas non plus, parce que je n'ai pas tout le temps, mais on pourrait montrer aussi, à partir de ce passage du Tétète, on peut montrer aussi que du coup le langage, parce qu'il est poétique, serait politique, enfin, à condition d'entendre la politique comme le lieu du pouvoir, ce qui n'est pas la thèse de Platon, c'est le lieu de la vérité pour Platon. Mais si la politique, c'est une affaire de pouvoir, on voit très bien que les opinions qui ne sont ni vraies ni fausses, qui sont des appréciations, eh bien, vont se rivaliser, l'une devra l'emporter sur l'autre dans la cité, puisqu'il faut qu'une opinion domine pour qu'il y ait une unité des voix. Mais le discours qui vaut le mieux, c'est celui qui l'emporte, c'est celui qui fait le plus d'effet, c'est-à-dire celui qui est le plus convaincant. Et le plus convaincant, ça ne veut pas dire trompeur, mais c'est le plus efficace. C'est celui qui fait qu'on va avoir, le moral, on va travailler de façon avec plus de conviction, et ça va produire des effets. Parce que c'est une façon d'envisager la réalité, une façon de voir les choses qui est avantageuse. Donc, il y a une manière d'exprimer les choses de façon qu'on se porte au mieux. Le langage a donc une puissance plastique et il est donc, pour Protagoras, absurde d'aller traquer le mensonge dans le langage. Il n'y en a pas. Ce n'est pas le mensonge qu'il faut traquer, c'est la médiocrité, c'est la tristesse. On ne parle de mensonge que si on a postulé, comme le fait naïvement Socrate, cette vérité en soi, hiératique, sans voir que précisément elle est... un fantasme, une créature du langage. Donc, les mots constituent un savoir qui est à la mesure de leur puissance. Le discours qui marche est le discours vrai, et les mots s'adressent à l'âme. En fait, il n'y a pas besoin des choses. Les mots disposent les âmes. Il n'y a pas de transcendance de la vérité. Il n'y a pas de médiation ontologique. Il y a une efficacité, une immanence de la vérité ou de, je sais pas, de, on peut dire du savoir dans les mots qui font plutôt qu'ils ne disent. C'est un langage performatif, le langage de Protagoras. C'est un moyen de communication. Il communique une vérité, entre guillemets, qui fait du bien, qui se reconnaît à son bienfait. Le verbe être, dans cette affaire, c'est une commodité, c'est bien commode. Il stabilise les opinions quand même, il renforce les effets de croyance surtout. Donc si on s'en tenait là, donc ce sont des choses qu'on connaît assez bien. Et donc au passage, le politique, c'est évidemment celui qui tient, je pense que vous l'avez reconnu, qui est capable d'opérer un changement dans l'opinion, qui fait que les décisions et les pratiques dans la cité apparaîtront sous leur meilleur jour. On attend un politique qui nous dise enfin ce qui va nous remonter le moral, que la cité sera donc plus puissante, plus juste, parce que c'est celle dont on dit le plus de bien. Et c'est ce qu'on appelle le prestige, et ça a des effets. Oui, on sait très bien que si un État a une bonne réputation, ben, il va attirer les investissements, donc l'économie sera florissante, donc il attirera les investissements, et ainsi de suite. Alors, le discours démoralisant qu'on peut tenir est au contraire catastrophique. Donc le discours performatif, ça existe, hein, c'est efficace, et on ne peut pas le nier. Hein. Ce que va nier Platon, on va le voir un peu plus loin, c'est que ça n'est pas le langage, c'est pas la vocation du langage. C'est une façon de le détourner, c'est une façon de parler parmi d'autres. Et on sait que Platon admire les poètes. Donc les mots, c'est fait pour agir, pour nous faire agir, pour nous faire désirer et agir. Et donc, j'en profite pour vendre mon livre, puisque c'est le cas dans Racine, par exemple, hein, les personnages, il n'y a pas d'action dans Racine. Les personnages passent leur temps à parler. Et ils ne parlent jamais pour dire ce qui est, on le voit très clairement, mais chez Racine, c'est en creux. En réalité, on voit que le langage prétend dire ce qui est, et ils parlent pour faire pression, pour faire agir, ils font du chantage, ils disent toujours autre chose que ce qu'ils vont faire, parce qu'ils cherchent, c'est le langage du désir. Donc, il ne dit jamais ce qui est, mais ce qu'il voudrait voir arriver quand Andromaque refuse la pression de Pyrrhus qui veut qu'elle l'épouse, parce qu'il la menace de tuer son fils, Astyanax, si elle ne l'épouse pas. C'est une méthode de conquête assez contestable, mais elle va céder, mais elle lui dit tout le long, jamais je ne t'épouserai, tant pis pour Astyanax, je perdrai mon fils, je perdrai tout, il a déjà perdu son père, il perdra la vie, mais jamais je t'épouserai. Évidemment, elle va l'épouser, ça finit pas comme ça parce qu'il meurt avant, mais elle va céder. Donc les mots ne disent jamais ce qui est, c'est pas du tout le but. Les mots disent nos désirs, nos fantasmes, nos illusions notre foi dans ce qui n'est pas. Donc, sauf que chez Racine, bien sûr, ça témoigne de l'impuissance de la volonté et en creux, il y a une ironie de la vérité, que les choses ne s'accompliront pas comme elles sont dites parce que le langage est incapable de dire ce qui est. Donc en tout cas, il y a cet usage, nous faisons cet usage actif du langage. Chez Racine, il y a une impuissance à l'action. Il n'y a pas d'action et ça n'ira jamais jusqu'au bout. Les personnages se sont contentés de désirs impossibles. Donc si en tout cas on pouvait penser que le langage ainsi sert l'action, qu'il y a une modalité de l'action en réalité, comme on vient au théâtre, c'est ce qui devrait être confirmé particulièrement dans l'expérience de l'enseignement. On serait bien content parce que dans ce cas, on aurait des élèves qui aurait des résultats à la mesure de notre enseignement, ce qu'on constate souvent que ce n'est pas du tout à proportion. Et c'est ce que nous dit saint Augustin dans le Maître, dans un premier temps, dans le Maître, il nous dit, ben, il semble en effet qu'on n'enseigne pas sans les mots, comme si les mots faisaient des effets dans les âmes. Et on a longtemps utilisé la métaphore séminale pour dire que l'enseignement fécondait les esprits, comme si la vérité, la puissance des mots se transmettait dans les âmes. Il semble que Protagoras ait raison, si on s'en tient à notre expérience de l'enseignement, puisqu'il semble qu'on transmet un savoir, que les mots transportent la vérité de façon immanente. Donc, maintenant je vais aborder le texte de saint Augustin qui s'appelle « Le Maître », ou de près, Saint-Augustin examine ce qui se passe quand on enseigne. Alors, le texte est découpé en deux moments, d'ailleurs inégaux. Le plus long, le premier, c'est le moment où il abonde dans le sens de cette thèse. On ne peut rien apprendre sans les mots. Et il va même jusqu'à dire que les mots ne font qu'enseigner. En fait, quelle que soit la façon dont on parle, il semble qu'on enseigne. On dit toujours ce qui est, ou en tout cas on le prétend. On ne peut pas connaître l'être des choses autrement que par les mots. Donc évidemment, c'est un premier moment qui va être ensuite nié. Mais dans toute la première partie, Augustin s'adresse à Déoda, son fils, et il lui fait admettre, hein, c'est présenté sous la forme d'un dialogue, il fait semblant d'admettre cette thèse, que le langage est le vecteur de la vérité, qu'il est peut-être même l'organe de la vérité. Donc il commence, c'est le début du texte, un texte assez court, il commence par établir que le langage est le lieu de la vérité, que la fonction essentielle du langage, exclusive même, c'est d'enseigner, parce que même quand on exprime un désir, en réalité, on instruit l'interlocuteur de sa volonté. Donc on ne peut pas se passer du langage pour instruire. Je m'intéresse surtout à la deuxième partie qui conteste cette thèse, mais et on explique un mot par un autre mot. Donc on ne peut rien apprendre sans les mots, même les mots requièrent les mots. Il semble qu'on n'a aucun moyen d'apprendre. Donc à un moment donné, Adéoda se dit, mais non, on peut montrer aussi les choses. Il dit, par exemple, on peut montrer qu'on marche. Mais en fait, si je veux montrer ce que veut dire marcher sans les mots, hein, donc en marchant, il faudra que je montre que je montre, en marchant plus vite, par exemple. Et dans ce cas, je ne fais pas la différence entre marcher et accélérer. Donc, tout ça pour dire qu'on instruit très mal si on n'instruit pas avec les mots. On arrive, et même si je montre quelque chose, le geste de montrer, ce n'est pas un mot, mais c'est un signe. Donc il faut encore que je désigne cette chose et que je la signifie par un signe, qui est le geste de montrer. Donc en réalité, il semble impossible d'instruire de quoi que ce soit, même de quelque chose aussi simple que de marcher, sans utiliser des signes. Je vais faire signe que je suis en train de montrer ce que c'est que marcher, en m'arrêtant, en accélérant, etc. Seulement une fois qu'il a bien montré en largeur ce que c'est que font les mots, c'est-à-dire qu'ils transmettent la vérité, ils la transportent, la vérité n'est pas ailleurs, n'est pas suspendue ou à un être qui serait indépendant, ce sont les mots qui la livrent. Ça supposerait donc que les mots informent les âmes, que les mots consistent à émettre des opinions, des appréciations, et c'est dans les mots que se trouve la vérité, c'est le siège de ce qu'on désigne. Les mots, le langage serait un principe générateur de ce qu'il exprime. Ce sont les mots qui informent les choses qu'il désigne. Donc c'est pas très étonnant, on a l'impression que ça marche très bien, les opinions se communiquent, et on va dire qu'on va essayer de voir les choses comme quelqu'un d'autre les voit, quand on échange des opinions, on essaye de voir du même point de vue, et il semble qu'il n'y ait pas d'autre transmission du savoir par la parole. Or, à partir j'appelle ça une deuxième partie, mais dans le texte, en fait, c'est d'abord la suite. Donc à partir du paragraphe, à peu près du paragraphe 33, la thèse se retourne et Augustin dit « Mais non, rien ne s'enseigne par les signes, au contraire. Sinon, on ne pourrait rien enseigner. » Alors, en effet, à cette thèse d'une transmission du savoir, d'une sorte d'immanence de la vérité à la parole, il y a quand même quelque chose d'un peu étrange à cette idée qu'on transmettrait le savoir, parce que si on transmettait le savoir, eh bien, on ne transmettrait que des opinions, que les opinions qui se transmettent. Dans le paragraphe 45, il dit la chose suivante. Les maîtres font-ils profession de faire entendre et retenir leurs propres pensées et non les disciplines qu'ils pensent transmettre en parlant? Qui donc chercherait le savoir de manière si insensée qu'il envoie son fils à l'école pour apprendre ce que pense le maître? Mais lorsque les maîtres ont exposé à l'aide de mots toutes les disciplines qu'ils professent, y compris celles touchant la vertu et la sagesse, alors ceux qu'il appelle disciples examinent en eux-mêmes ce si ce qu'on leur dit est vrai, tournant leur regard en fonction de leur force, cela va de soi, vers la vérité intérieure. Donc, il nous dit, mais si vraiment on parlait, j'allais dire si on parlait avec les mots, non, on parlait avec les mots, mais si on disait la vérité avec les mots, si on transmettait un savoir par les mots, ça voudrait dire qu'on envoie son enfant à l'école pour qu'il apprenne ce que dit le maître, c'est-à-dire ce que pense le maître. C'est un scandale. Moi, je n'envoie pas mes enfants à l'école ni au Bussin pour qu'ils apprennent ce que pense le maître. Moi qui enseigne, je n'enseigne pas ce que je pense, parce que ce serait un scandale. Et c'est comme ça que les étudiants disent « j'ai une mauvaise note parce que je n'ai pas dit ce que le maître avait dit, je n'ai pas dit ce qui lui plaisait. » Quand j'entendais ça, je disais toujours « ça prouve que tu n'as pas fait de philo. C'est que tu ne savais pas ce que c'était, sinon tu n'aurais pas cherché à faire ce qui plaît au maître. » Ça voudrait dire qu'on transmet ce que pense le maître et qu'on envoie à l'école les enfants pour écouter les opinions d'un maître. On voit tout de suite que ça ne va pas du tout, que ça ne peut pas être ça. Si la vérité est immanente au langage, il n'y aurait que des opinions et on n'apprendrait rien. Il faut que les maîtres enseignent non pas ce qu'ils pensent, mais les disciplines, dit les uns. Un savoir qui est indépendant de ce que pense le maître dans son opinion personnelle. Donc il doit y avoir une transcendance de la vérité s'il y a un savoir. Et si on regarde de près, il n'y a pas de communication du tout. C'est ce que nous apprend le texte à partir du paragraphe 33 à peu près, dans le maître de Saint-Augustin. En effet, alors voilà ce qu'il nous dit à peu près. Ainsi, quand je lis... Leurs sarabars ne furent pas endommagés. Ce mot ne me montre pas l'objet qu'il signifie, car si on nomme ainsi certains couvre-chefs, est-ce que je l'ai découvert en entendant ce que c'est qu'un chef et ce que c'est que couvrir ? Je le savais auparavant, et ce n'est pas en les entendant nommer par d'autres, mais en les voyant moi-même, que j'en ai pris connaissance. Donc il nous dit, si les mots devaient désigner quelque chose de façon immanente, s'ils devaient... créer la réalité qu'il désigne, dès que je prononce un mot, je saurais ce que c'est. Alors, par exemple, si j'emploie le mot sarabar, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Et je vais, à moins de le savoir déjà, je l'ignorerai tant qu'on m'en parle. Ce ne sont pas les mots qui désignent, qui fabriquent la réalité qu'il désigne. Le mot ne peut servir qu'à désigner quelque chose qu'on sait déjà. Il insiste lourdement, c'est un texte très pédagogique. Il dit « Suppose qu'en ce moment, nous entendons le mot « tête » pour la première fois. Nous ignorons si c'est seulement un simple son de voix ou s'il possède aussi une signification. Et nous cherchons ce qu'est cette tête. Souviens-toi que nous désirons la connaissance non de la chose signifiée, mais du signe lui-même. Connaissance qui nous manque évidemment tant que nous ignorons ce dont il est le signe. Si donc, tandis que nous cherchons, on nous montre du doigt l'objet lui-même, nous apprenons en le voyant le sens du signe que nous avions jusque-là entendu, mais non compris. Or, comme dans ce signe, il y a deux éléments, le son et la signification, le premier n'est pas perçu certes au moyen du signe, mais par le fait que le souffle frappe l'air, quant à la signification, elle ne l'est qu'en voyant la chose signifiée. Donc il nous dit, si on entend un mot pour la première fois, et même la deuxième ou la troisième, tant qu'on ne sait pas la signification de ce mot, il reste vide. Il ne désigne rien, en tout cas il ne découpe rien dans la réalité, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Il faut que je le sache déjà, ou alors qu'on me le montre, et au moment où on me le montre, c'est-à-dire au moment où j'apprends la signification du signe, je dois apprendre en fait deux choses. Je dis, j'apprends, je comprends ce que le mot désigne, la tête, par exemple, que je vais montrer, qui est perçue, que je vois donc comme telle, par un autre moyen que par les mots, par la vue, mais je dois aussi en même temps comprendre que c'est la signification du mot, c'est-à-dire que je dois comprendre que le mot est un mot, et non pas un son. J'entends deux choses quand j'entends un son, j'entends que c'est un signe, et j'entends du coup ce qu'il signifie. Mais il faut que je, non seulement que je comprenne ce qu'est la chose désignée, mais que je comprenne le lien entre le son et la chose. Donc il y a un double travail de l'intelligence qui se tourne vers autre chose que le son, pour le constituer comme signe. Donc du même coup, l'intelligence outrepasse le mot pour en faire un mot et non pas un son, pour en faire un signe, quelque chose qui désigne, c'est-à-dire qui va au-delà de soi. Donc l'intelligence, non seulement elle voit la tête, et elle voit ce qui est désigné, mais elle rapporte la tête au son tête. Donc le signe tout seul ne dit absolument rien, il prononce un son, c'est tout. Il ne transporte rien, il ne fait rien voir, c'est l'intelligence qui le constitue comme signe et qui le rend signifiant par conséquent, c'est-à-dire qui lui donne cette espèce de caractère translucide, il fait voir à travers, et qui le soumet à une transcendance. Donc les mots ne nous apprennent rien sinon un son qui frappe nos oreilles. Il faut que je le comprenne, qu'il y a un acte de l'intelligence, qui le rapporte à quelque chose que d'une façon ou d'une autre, on sait déjà. Donc ici, le rapport, la connaissance, c'est-à-dire le rapport à la vérité, est fourni par la vue, dans l'exemple des sarabars peut-être, et de la tête. Donc le langage, pour saint Augustin, ne dit pas la vérité, au sens où il en serait le véhicule, mais s'il l'a dit, c'est parce qu'il ne la communique pas, plutôt. Le geste de désignation, ce n'est pas une communication. La seule chose qui se communique, la seule communication qui a lieu, c'est par les corps, c'est le mouvement qui se communique, hein, par la loi d'inertie. Mais la vérité, ça ne se communique pas. Il faut susciter un acte de l'intelligence de celui qui écoute le son. Et la connaissance consiste à anticiper sur le signe ce qu'il désigne. Le signe ne fait que rappeler ce que je sais déjà. Il faut que la connaissance soit antérieure à l'opération qu'il exprime. Bon, saint Augustin rappelle en réalité la thèse de la réminiscence de Platon. Hein. Le fait d'enseigner s'apparente à une reconnaissance. Dans le passage que vous avez vu juste avant, je vais y revenir, les disciples, en écoutant le maître, se tournent vers eux-mêmes et évaluent la vérité de ce qu'il leur est raconté. Sinon, ils se contenteraient de répéter ce que dit le maître et il n'y aurait pas de savoir, il n'y aurait qu'une vérité révélée. Ce serait le modèle de la croyance. Le modèle de la croyance, c'est celui de la transmission, si on veut. Le dogme se transmet, on l'apprend, on y croit. Mais s'il y a un savoir, il ne peut pas y avoir de transmission. Donc, il nous dit un petit peu plus loin que la connaissance des choses achève la connaissance des mots. En revanche, en entendant les mots, on ne les apprend même pas, car nous n'apprenons pas les mots que nous savons déjà, et ceux que nous apprenons, nous ne pouvons affirmer les savoirs qu'après en avoir saisi la signification. Ce qui résulte, non de l'audition d'une émission de voix, mais de la connaissance des choses signifiées. Donc il faut que j'ai déjà vu les choses pour comprendre les mots qui les désignent. Et le mot seul ne nous a jamais permis de connaître leur signification. Alors, bien sûr, même l'identification des mots comme mots, c'est-à-dire comme signes, comme instrument de signification, présuppose une connaissance antérieure. Il faut que je reconnaisse que j'ai affaire à des signes. Et non pas à des signaux, par exemple. Hein. C'est ce que dit Descartes aussi dans la fameuse lettre à Newcastle sur le langage des animaux et le langage des hommes. On peut penser qu'un animal, si on suit Descartes, n'entendrait qu'une succession de sons. Donc éventuellement, il réagit à un son, il peut avoir par habitude appris à réagir à une modification sonore, mais il n'entend pas un signe, c'est ce que suppose Descartes, c'est-à-dire quelque chose qui a une signification et qui suppose une opération de l'intelligence, qui entend le son comme signe. Donc ça va impliquer la distinction dans le texte, hein, c'est à ça que ça sert pour Augustin, à distinguer la différence entre la croyance et le savoir. Donc bien sûr, Adéoda fait des objections et il dit « Mais enfin, quand même, on a l'impression qu'il y a quand même des choses qu'on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout vérifier par l'expérience, il y a quand même des choses qu'on apprend par les mots. Par exemple, quand la Bible nous raconte, issue d'un passage de Daniel, l'histoire des trois enfants, comment par leur foi et leur piété ils ont vaincu le roi et les flammes, quelles louanges ils ont chanté à Dieu, quels honneurs ils ont obtenus de leur ennemi même, tout cela ne l'avons-nous pas appris autrement, nous pas appris par les mots ?» Et on nous raconte une histoire, même la plupart des histoires qu'on nous raconte, on n'est pas allé vérifier sur place, on le sait, semble-t-il, beaucoup de choses qu'on pense savoir uniquement parce qu'on nous en a parlé, parce qu'on nous l'a raconté. Alors, Augustin répond, non, ça ne change rien du tout au problème, parce que dans ce qui m'est raconté,
Tu vois, il y a des choses que je sais déjà. Je sais ce que sont des enfants, je sais ce que c'est que le feu. Alors, bien sûr, ils s'appellent Ananias, Azarias et Misaël, alors je ne les connais pas. Mais justement, je ne les connais pas et je ne les connaîtrai pas. C'est pas parce qu'on me dit Misaël que d'un seul coup, je vois à quoi ils ressemblent. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent, je sais juste que ce sont des enfants. Donc, ce que j'ignore, je ne le sais pas davantage parce qu'on m'en a parlé. Et je vais évaluer ce qu'on me dit à la lumière de ce que je sais. Donc, je vais évaluer, par exemple, la vraisemblance de cette histoire, parce que je sais ce que c'est que le feu, je sais ce que sont des enfants, je sais ce que c'est que la foi, etc. Et je vais entendre ce que je sais à partir de mon savoir, et ce que je ne sais pas, je vais évaluer si c'est vraisemblable ou pas, et je vais y croire, plus ou moins. Donc, je vais admettre la vérité de quelque chose, sans en avoir de certitude, en tout cas, ce ne sera pas un savoir, dans la mesure où les mots me parlent de choses que je n'ai pas pu vérifier avec certitude. Donc, il y a une utilité, dit la fin de ce passage, c'est la première partie dans le découpage du texte. Il nous dit, je n'ignore pas l'utilité de croire beaucoup de choses dont je n'ai pas la connaissance, et parmi elles, l'histoire des trois enfants. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on croit apprendre par les mots, mais on n'apprend pas rigoureusement, on croit. Et c'est une croyance mesurée, c'est une croyance dont on sait qu'elle n'est pas un savoir parce que je n'ai pas pu vérifier, je n'ai pas déjà la connaissance de ce dont on me parle. Mais comme j'ai la connaissance d'autres choses qui leur ressemblent, je peux évaluer. Et si on me dit que le Père Noël existe, bon ben ça c'est pas vraisemblable, je n'y crois pas. Mais si on me parle, là il croit à l'histoire des trois enfants, ça lui paraît vraisemblable et il croit à l'histoire qu'il n'a pas pu vérifier, dont il n'a pas été témoin. Donc c'est à partir d'un savoir antérieur qu'on va juger de choses qu'on ignore, mais qu'on ne refuse pas pour autant, mais qui relèveront de la croyance, c'est-à-dire une extension de la connaissance à des choses vraisemblables, éclairées par un savoir. Donc, énormément de choses qu'on dit savoir, en fait, mais qui rigoureusement relèvent d'une croyance modérée, d'une croyance évaluée, justement évaluée. Voilà pourquoi il ajoute un petit peu plus loin. Tout ce que nous disons, ou bien l'auditeur ignore si c'est vrai, ou bien il n'ignore pas que c'est faux, ou bien il en sait la vérité. Dans le premier de ces trois cas, il croit, il conjecture, il doute. Donc, vous voyez, c'est quand on ne sait pas si c'est vrai. On peut avoir une attitude qui consistera à présumer que c'est peut-être... On ne sait pas. On croit, on conjecture, on doute. Ou bien, il n'ignore pas que c'est faux. Dans le cas où on sait que c'est faux, on s'oppose et on nie. Et dans le troisième, où on sait que c'est vrai, on affirme. Jamais donc, il n'apprend. Et quand on nous parle, quand le maître me parle, ou un autre, eh bien, ou je doute, ou je nie, ou je sais, ou j'affirme, comme lui. C'est-à-dire que j'ai vérifié la validité du propos. Et je n'apprends que si je sais déjà. Car celui qui reste ignorant de la chose après mes paroles, aussi bien que celui qui sait qu'il a entendu des faussetés, et celui qui pourrait répondre après interrogation sur la même qui a été dit, chacun est convaincu n'avoir rien appris par les mots. C'est pourquoi, en ce qui concerne toujours les choses saisies par l'esprit, celui qui ne peut les voir écoute en vain les paroles de celui qui les voit, à moins qu'il ne les croie, ce qui est utile tant qu'il les ignore. Donc quand on me parle de choses que je ne sais pas, que j'ai jamais vues, je n'apprends rien. Ou alors, je crois, mais je crois à partir de ce que je sais déjà, qui peut y ressembler. Ouais. Quant à celui qui peut les voir, il est au-dedans disciple de la vérité, et au-dehors juge de celui qui parle, ou plutôt de ses paroles. En revanche, si je sais déjà, eh bien, je nie ou j'affirme en fonction de ce qui m'est dit, et je suis donc le disciple de la vérité au-dedans. C'est parce que je sais en moi, par une expérience antérieure ou par une connaissance intelligible, je sais déjà ce qui m'est dit que je peux approuver ou au contraire nier ce qui m'est affirmé. Donc je n'apprends jamais d'un autre et je n'apprends qu'à partir de moi-même. Donc les mots, on n'apprend rien du tout du professeur, mais on apprend ce qu'on sait déjà. Les mots rappellent une connaissance antérieure ou suscitent la croyance ou le doute. Donc les mots ont un rôle, bien sûr, on ne peut pas s'en passer parce qu'ils ont cette qualité, cette faculté de nous rendre attentifs à quelque chose, de rappeler, de faire revenir en mémoire et de permettre l'exercice du doute ou de la croyance à partir d'un jugement dont je dispose déjà. Je peux juger à partir de ce que je sais déjà. Donc, ils permettent l'exercice du jugement. Je vais pouvoir juger de la probabilité de ce qui m'est affirmé. Mais rigoureusement, oui, je ne peux pas dire que le savoir transporte la vérité, que je vais déposer comme un paquet ce que je sais dans l'esprit d'un élève. La vérité est donc toujours intérieure. Nous consultons dans le vocabulaire d'Augustin l'homme intérieur. Alors, il clarifie un petit peu avant, en réalité, là, les différentes sortes de connaissances que nous avons. Nous pouvons avoir des connaissances qui portent sur des choses visibles. Si l'interrogateur ne voit pas lui-même, il croit en nos paroles. Souvent, il n'y croit pas. Mais dans aucun des cas, il ne s'instruit à moins qu'il ne voit lui-même ce qu'on lui dit. Et donc, il prend l'exemple, je ne sais plus, c'était juste avant. Si on nous parle de la lune, si on me dit la lune est pleine, alors soit je suis là, je le vérifie, soit je ne le vois pas, je ne suis pas témoin et je ne peux pas savoir si c'est vrai ou faux. Je n'entends pas la vérité de ce qui m'est affirmé. Soit on a, donc ça c'est pour les choses visibles, il faut avoir partager l'expérience de celui qui me parle. Ou bien si, le plus souvent, on ne parle pas des choses qu'on a sous les yeux, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on parle de choses absentes, et dans ce cas, on peut avoir affaire à des choses qui sont imprimées dans la mémoire. Souvent, on parle de choses qui exigent une consultation des documents, dit le texte, dans la mémoire. Les images sont imprimées, la mémoire les a conservées. Donc, alors que nous ne voyons pas leur réalité même, nous transportons ces images dans les replis de notre mémoire comme documents de choses senties par le passé. En les contemplant mentalement de bonne foi, nous ne mentons pas quand nous parlons. Et c'est seulement pour nous que ces images ont valeur de document, car celui qui écoute, s'il a senti et éprouvé personnellement ce que je dis, ce n'est pas par mes paroles qu'il l'apprend, mais il le reconnaît grâce aux images qu'il a lui-même conservées. Et s'il ne l'a pas senti, il croit à mes paroles, plus qu'il ne s'instruit des choses. C'est toujours la même chose, hein. On va pouvoir parler des choses qu'on n'a pas sous les yeux, comment vérifier ? Ben, celui qui écoute vérifie en allant consulter à son tour sa mémoire. Soit il a le témoignage et la même expérience, soit il n'a pas. S'il a le témoignage, il sait, parce qu'il a la connaissance en lui-même. S'il ne l'a pas, il croit. Et enfin, il souligne, c'est ce qui va nous importer surtout, puisqu'il est question du verbe être et des concepts qui l'accompagnent, il y a aussi, bien sûr, des connaissances théoriques, des connaissances intelligibles, des choses qu'on ne connaît que par l'intelligence et la raison. Alors là, il nous dit « Nous exprimons assurément ce que nous voyons comme présent dans cette lumière intérieure de la vérité qui inonde ce que nous appelons l'homme intérieur de clarté et de joie. » Ne compliquons pas, parce qu'il va être question là de la vérité qui est le Christ, mais la thèse est platonicienne, c'est la réminiscence. Donc, lorsqu'on nous parle de choses qui ne relèvent pas de l'expérience, comme des vérités mathématiques ou philosophiques, eh bien, nous vérifions dans notre mémoire de l'éternité, dans cette mémoire antérieure à toute expérience, la validité de ce qui nous est conté. La vérité n'est pas apprise par le langage, elle n'est pas fabriquée ou produite. Le savoir n'est pas transmissible, il faut que je dispose déjà par une réminiscence de la connaissance des idées. Donc, le disciple se tourne vers lui-même à l'occasion de l'enseignement du professeur et, comme dans le Ménon, nous sommes capables, nous sommes aidés par l'attention que les mots nous font porter sur certaines de nos pensées, nous sommes capables de les découvrir en nous-mêmes. Donc, ça entraîne bien sûr qu'aucune assertion rigoureusement n'est tout à fait vraie ou fausse en elle-même. Elle se rapporte à une expérience ou intelligible ou sensible. La vérité n'est pas logée dans les mots. On ne l'y trouve pas. Elle est l'occasion de reconnaître. Les mots, plutôt, sont l'occasion de la reconnaître, de la saisir en dehors des mots. Elle est toujours ailleurs que là où on prétend la trouver ou la saisir. Ça renvoie à la fameuse deuxième hypothèse du tête-à-tête où on essaye de voir si dans une affirmation on peut trouver la vérité, comment elle s'y trouve. En fait, elle n'est jamais dedans, elle est dans un rapport, elle est ailleurs. Alors, le problème n'est pas complètement résolu parce que Bien sûr, on pourrait être un peu, rester un petit peu sceptique à l'égard de cette thèse de la réminiscence. On retient souvent de cette thèse de la réminiscence le résultat un peu bizarre que la connaissance s'anticipe elle-même, qu'on sait avant de savoir, qu'il y a toujours une antériorité à la première fois. Mais il faut d'abord comprendre, je pense, dans cette thèse de la réminiscence, ce qu'on vient de voir avec Saint-Augustin, c'est que les mots qui apprennent la vérité ou qui semblent l'apprendre fonctionnent comme des images. C'est ça que nous dit la réminiscence. C'est que j'ai affaire à quelque chose et je ne prends pas cette chose pour une chose, je la prends pour un signe. La réminiscence, c'est une façon de désigner cette capacité qu'a l'intelligence de traverser une chose pour la constituer comme signe, de voir au-delà. Un signe, c'est une chose, un son, c'est un fait, mais qui conduit au-delà de lui-même. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a la même qualité qu'une image. Enfin, en grec, en fait, c'est une des traductions, image, une des traductions d'Eidolon, qui veut dire trace aussi, image, fantôme même, ça peut vouloir dire. C'est-à-dire, vous voyez, une trace, c'est peut-être mieux comme traduction que image. L'image, on voit quelque chose de contourné, qui a une couleur, ça. Non, en fait, ça veut dire une trace. Il y a une lettre de Descartes qui parle de ça. Une trace, c'est un vestige. Quand il y a une trace dans le sable, c'est à la fois le signe d'une présence. Ça atteste que quelque chose existe, mais ça atteste aussi de son absence. Comme la trace, elle dit aussi que c'est pas là, s'il y a une trace. Donc, oui, c'est ça la réminiscence. Ça consiste à avoir affaire à quelque chose qu'on lit comme une trace, comme un signe, si on préfère, qui atteste d'une existence, mais en son absence. Et les mots, ils sont faits pour nous faire voir quelque chose qui existe, mais qui nous rappelle, parce que c'est pas là, en même temps. C'est pas une chose. Enfin, en tout cas, c'est une pensée qui est toujours possible, qu'on peut rappeler, qui est disponible en l'âme, mais qui n'y est pas constamment. Sinon, on n'aurait pas besoin des mots. Alors, ce qui est un petit peu difficile à croire ou à comprendre, c'est alors comment, en matière de connaissances intelligibles, on pourrait mentir. On pense au sophiste, à l'enseignement du sophiste. Si je sais déjà tout ce qu'on me raconte, est-ce que j'ai besoin d'apprendre ? Comment est-ce que je peux être trompée par un discours ? Est-ce qu'il ne m'arrive pas d'ignorer le modèle ? Est-ce que je ne suis pas condamnée à avoir foi ? Alors ça signifierait que peut-être parfois je crois savoir, alors je ne fais qu'avoir foi dans les mots. Est-ce que je ne puis pas vraiment apprendre à partir des seuls mots ? Est-ce que dans quelle mesure je peux penser que je serais peut-être capable d'un savoir, même si je n'ai pas le modèle en tête à tout prix ? Ou est-ce que, en fait, je ne fais, quand j'apprends des choses intelligibles, que vérifier ou bien présumer ? En matière intellectuelle, on peut se demander si ça marche vraiment, et je pense justement au verbe être. Est-ce que je vois l'être comme ça, il suffit que je dise l'être pour le voir, ou est-ce que je peux pas penser que j'apprends quelque chose en lisant les philosophes? Et comment est-ce que je sais si les mots enseignent ou s'ils n'enseignent pas et me disent n'importe quoi? Mais comment je distingue le discours du sophiste et le discours du philosophe? Comment je distingue une parole creuse d'une parole vraie? De quoi me parle exactement le verbe être, ce qui me dit, parce qu'il prétend le dire, ce que sont les choses? Mais comment je sais s'il dit bien ce qu'elles sont, ou s'il est fin et trompeur? Est-ce que le menteur parle la même langue que la vérité, que celle de la vérité? Alors, est-ce que je dois dire, pour me défendre, que je, comme le pense Saint-Augustin, que j'ai déjà connaissance de cet être par une science éternelle? Mais alors, comment comprendre que je puisse être dupe, que je puisse me tromper, que je puisse être dupe de certaines formulations, que des assertions sur l'être puissent être fausses? Voilà, comment est-ce qu'on distingue, alors, si le langage est une espèce d'image, de trace, comment est-ce que je distingue une vraie image qui ressemble à ce modèle et qui me le ferait connaître, par réminiscence, d'une fausse image et qui me tromperait et qui me ferait croire que je vois quelque chose qui existe? C'est pas ça. Donc, on fait l'hypothèse que le langage est bien une espèce d'image, l'effet de signe de quelque chose qui préexiste, il reste quand même à comprendre comment je peux me tromper, ou comment je peux être trompé. Alors c'est précisément l'objet du sophiste de Platon, puisque, comme le titre l'indique, il va s'agir de définir le sophiste, et notamment de le distinguer du philosophe, parce que, comme le dit le début du texte, ils se ressemblent comme chien et loup, et ils sont proprement indiscernables l'un de l'autre, de l'extérieur. On ne peut pas vraiment faire la différence. Donc tout le sophisme, c'est une espèce de recherche de la définition du sophisme, pour essayer de le traquer, dit le texte, pour le définir et essayer de voir comment il s'y prend pour ressembler au philosophe de telle sorte qu'on s'y trompe. Et donc, il y a des tas de sophistes qui ont le nom de philosophe. Or, sur le problème qui nous intéresse, de savoir comment on reconnaît un vrai discours d'un faux discours, c'est-à-dire une vraie image d'une fausse image, comment on est donc trompé sur le modèle, le texte du sophiste nous aide bien parce qu'à un moment donné, l'étranger qui parle à tête-à-tête est forcé, pour définir le sophiste, de distinguer justement dans l'art de l'imitation deux sortes d'images, deux façons d'imiter. Donc là, je vais me situer à peu près en 235b dans le sophiste de Platon. Donc le sophiste a été défini de toutes sortes de façons et il a été défini comme une espèce d'imitateur. Mais maintenant, il dit, mais qu'est-ce qu'il imite exactement? Parce qu'il y a plein de façons d'imiter. Les artistes sont des imitateurs. Il y a plusieurs façons de produire des images. Et donc, il faut faire des subdivisions. Selon la méthode de division utilisée jusqu'ici, dit l'étranger, je crois distinguer maintenant deux formes d'imitation. Mais je ne suis pas encore capable de percevoir quelle est celle des deux qui est la forme que nous cherchons. Parle-moi d'abord, ça. Je vois en elle, d'une part, une technique qui consiste à faire des copies. Celle-ci est surtout évidente lorsque quelqu'un, tenant compte des proportions du modèle en longueur, largeur et profondeur, produit une imitation qui respecte, en outre, les couleurs appropriées de chaque chose. Et alors, dit Tête, tous les imitateurs n'essaient-ils pas d'agir ainsi ? Non, ce n'est pas le cas de ceux qui produisent ou qui dessinent des œuvres monumentales. Car s'ils reproduisaient les proportions réelles des choses belles, tu sais bien que les parties supérieures paraîtraient trop petites et les inférieures trop grandes, puisque nous voyons les unes de loin et les autres de près. Les artistes ne laissent-ils pas de côté la vérité en produisant dans les images, au détriment des proportions réelles, celles qui paraîtront être belles ? Donc, un petit peu plus loin, ce qui a l'apparence de ressembler à ce qui est beau, tout simplement parce qu'il est contemplé selon une certaine perspective, mais qui, s'il était regardé par quelqu'un ayant la capacité de le voir nettement, perdrait cette apparence, cette image, comment doit-elle être appelée ? Si elle a l'apparence d'une copie, sans y être semblable, n'est-elle pas une illusion ? Bon, c'est des traductions, hein, on peut traduire autrement. Donc il distingue deux sortes d'images en prenant l'exemple de la sculpture. Il y a d'abord des statues qui sont sculptées et qui ressemblent à leur modèle. On a respecté les proportions, les couleurs. Et dans le texte, c'est eikon en grec. C'est on traduit par image souvent. Donc là, il traduit par copie. C'est parce qu'il y a l'idée de conformité. C'est ce qui est pareil à ce modèle. Donc, on peut bien sûr n'avoir affaire qu'à la statue. Mais quand j'ai affaire à une statue, elle se signifie elle-même comme image, c'est-à-dire comme une chose qui fait penser à son modèle. Et je veux dire que c'est la statue de Zeus, le buste de Socrate. Bon. Et donc, ce qui fait la valeur de cette statue, de cette copie, c'est précisément sa capacité d'imiter, de ressembler à son modèle. C'est le portrait de Socrate, par exemple. Donc, oui, on ne peut pas s'empêcher de demander à une peinture qu'est-ce que c'est, parce que ça ressemble à un modèle. C'est la montagne Sainte-Victoire, c'est la gare de Rouen. Et il y a une réalité du modèle qu'on ignore, on n'y est pas à la gare de Rouen, mais on a affaire à une image qui nous donne une représentation conforme, et nous savons que le modèle existe ou qu'il a existé, qu'il ressemblait à cette photo. C'est ça une image, quelque chose qu'on voit et dont on se dit, tiens, ça ressemble à autre chose qu'on ne voit pas. C'est fait pour désigner autre chose que soi. C'est le cas d'une statue de Zeus, par exemple. Mais il met en lumière l'existence d'une autre façon d'imiter, c'est pas de copier justement, c'est l'exemple des statues en trompe-l'œil, où on déforme la statue parce qu'on va la regarder par exemple du bas d'une colonne, hein, donc c'est l'art monumental. La statue étant destinée à être placée en haut d'une colonne, si on la regarde, si elle était une copie avec de justes proportions, elle apparaîtrait déformée. Donc il faut la déformer en faisant une plus grosse tête par exemple, de façon à ce que quand on la regarde en perspective par-dessous, la statue apparaisse bien proportionnée. Donc évidemment c'est cet exemple qui est plus intéressant. Donc le texte traduit par une illusion, en grec c'est fantasma. Et fantasma, c'est ce qui frappe l'esprit, hein. C'est un rêve, c'est d'où la traduction d'illusion. Donc c'est une étrange image, cette fantasma. Alors l'art de faire des fantasmes, le fantasma, c'est la fantastique dans le texte, alors que l'autre art, c'est l'eikastique. On ne peut pas tellement traduire, mais c'est des mots qu'invente Platon de toute façon. Donc l'art de faire des fantasmas, c'est l'art de faire des images un peu bizarres, puisque c'est des images qui font comme si elles ressemblaient à un modèle, et qui font croire qu'elles sont proportionnées, mais en fait elles ne ressemblent pas à ce modèle. Donc ce sont des images qui n'en sont pas, elles feignent d'être des images. Et c'est des images bien proportionnées, mais la statue qu'on croit voir n'existe pas. C'est pour ça que c'est fantasma, c'est-à-dire que c'est un effet mental, c'est une vision, une apparition dans l'esprit. La statue que je vois, elle n'existe que dans mon esprit, par une illusion d'optique. Le fantasma, c'est ce qui se fait passer pour une image, et qui n'est pas une image, parce que ça imite une image. Je crois que j'ai affaire à une image, donc il y a un modèle qui ressemble, mais en fait, il n'y a rien du tout. Il y a un effet de ressemblance, mais ça ressemble à rien. Et c'est, je pense... c'est, je pense, le sens de la fameuse copie de la copie dans La République. Parce que c'est un drôle de texte, cette histoire de copie de copie. Enfin, on ne peut pas penser, moi il me semble que c'est un peu niais, que Platon pense que l'art en dessous, parce que ce serait une copie de copie qui imiterait des copies. Non, ça veut dire que l'art fait semblant de copier, mais copie rien du tout. Et particulièrement la peinture. C'est pas pour rien qu'on a pris l'exemple de la statue. La statue, elle peut être bien proportionnée, etc. Mais une peinture, comme le font remarquer beaucoup de commentateurs, hein, c'est toujours un effet d'optique, un effet d'illusion. Je vois en profondeur, il n'y a pas de profondeur. Je vois la gare de Rouen, en fait, ce sont des petits points sur une toile. C'est des petits points de couleur que je vais lire comme une image de quelque chose qui n'est pas ce qui est peint. Enfin, c'est ce que je crois voir. Mais la peinture elle-même, elle n'est qu'un ensemble de petits points mis les uns à côté des autres et qui font un effet d'optique, comme l'ont travaillé les pointillistes, etc., qui fait que je vois une image, je vois quelque chose qui se produit dans ma tête, mais qui n'existe nulle part. Et c'est ce que Platon prend comme exemple dans La République, hein, ce sont les peintres qui sont des illusionnistes et qui font des copies de copies parce qu'ils ne font pas des images, mais ils font semblant d'imiter. Il n'y a absolument pas critique de l'imitation chez Platon nulle part, au contraire, c'est une critique de ceux qui n'imitent pas. Mais on croit qu'ils imitent. Et ils font semblant d'imiter, si on regarde bien. Même critique, c'est plus visible encore dans La République, dans le livre 2 et 3, enfin, c'est à cheval sur le livre 2 et 3, c'est quand il parle du théâtre. Il condamne les auteurs de théâtre parce qu'ils imitent mal. Enfin, plus exactement, ils nous font croire que les dieux sont violents, lubriques, et les dieux sont pas comme ça. Donc ils nous montrent quelque chose, et comme on croit que c'est des images, eh bien on croit que les dieux sont comme ça, et on se trompe. Donc l'erreur, elle n'est pas... l'effet d'illusion est dans le fait de nous montrer quelque chose comme si c'était une image, alors que ce n'est pas une image. Ça n'imite rien du tout. C'est une fausse mimésis. Et il discute donc dans le livre 3 pour savoir si on pourrait admettre un art qui serait une vraie mimésis dans la République, dans la cité parfaite. Est-ce qu'on va admettre ou pas les artistes? Et mais si on les admet, c'est à condition qu'ils soient capables d'une vraie mimésis. Alors comme il n'arrive pas trop à trancher, il repousse le problème au livre 10. Et il revient donc au livre 10, et il rappelle à quel point l'art nous fait plaisir, etc. Il y a tout un éloge de l'art, mais en même temps, c'est quand même des gens qui nous trompent parce qu'ils imitent. Non, ils n'imitent pas. En fait, Platon a très bien vu que les peintres créent. Ils nous font voir, ils inventent un effet mental. Il y a de la création, ils nous font voir des modèles qui n'ont jamais existé. On a l'illusion de ces modèles. Et ce qui lui paraît dangereux, c'est précisément la création. Ce n'est pas une juste imitation. Et donc, dans le livre 10, il se demande si on admettra des artistes. Alors, on peut peut-être envisager un art imitatif, une vraie mimésis, mais c'est un peu dangereux. Ils hésitent, puis surtout, ce serait très ennuyeux. Il relève qu'un art qui nous imiterait les choses comme elles sont, on s'embêterait un petit peu, on aurait à faire des personnages vertueux. Et donc, il finit par trancher qu'il vaudrait peut-être mieux ne pas admettre d'artistes dans la cité. Mais le point, enfin, c'est une hésitation dans le texte, et... La peinture, c'est une image mentale. Vous voyez, toute peinture est une espèce d'anamorphose. Vous voyez, l'anamorphose, c'est cet effet visuel qu'on crée parfois, qu'on trouve dans les ambassadeurs d'Holbein, par exemple. C'est le crâne qui se trouve sur le tapis. Donc on voit que c'est un crâne lorsqu'on se déplace, c'est qu'on modifie sa place par rapport au tableau et on voit un crâne. On voit bien ce que c'est une image mentale qui se produit et puis qui se détruit au moment où on se replace en face du tableau. Donc le crâne, il existe nulle part, il existe comme un effet d'optique, et le sophiste est traité d'illusionniste ou de prestidigitateur. C'est la même chose quand on nous fait un tour de magie, on a cru voir quelque chose qui n'a pas eu lieu, mais il nous fait sortir un mouchoir de sa main, et il ne sort pas de la main, mais on croit le voir. Donc le fantasma, alors c'est pas une image ratée, hein, c'est pas ça. Oui, c'est pas ça la critique du théâtre dans le livre 3. C'est une image qui ne ressemble pas, mais qu'on prend pour une image. Donc on croit que ça ressemble. Et donc, elle a l'air de désigner un modèle, mais le modèle, il n'existe pas. Donc c'est là qu'il y a une tromperie ontologique. Mais il n'y a pas de ressemblance, mais ça ressemble à une ressemblance. Et on dirait que ça ressemble, que ça imite, or ça n'imite pas. Donc le fantasma imite le geste de désigner. Il fait le geste de désigner, mais en fait, il n'y a rien au bout. La statue qu'on voit n'existe pas, rigoureusement. Donc, ce n'est pas une image, c'est ce qu'on pourrait appeler une fausse image. Donc, comme dans la notion d'image et la notion de conformité, une fausse image, elle triche. Ce n'est pas une image du tout. Donc, l'imitation est en fait le modèle de Platon, c'est le modèle de la vérité. Donc le problème ne vient pas de ce qu'il y aurait des mauvaises imitations ou des mauvaises imitations, vous voyez, éloignées, c'est pas trop... Enfin, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut lire le passage du livre 10. C'est que l'artiste, en fait, crée un effet optique, il fabrique un effet mental qui passe pour une mimésis, pour une image de quelque chose, donc il donne une consistance ontologique à cette image mentale, alors que ça n'existe pas, c'est un artefact de l'imagination. Donc, elle ne peut pas nous garantir, cette fausse image, la réalité du modèle. Donc, à la fin du texte, à la fin du sophiste, cette distinction entre eikon et fantasma, entre copie et illusion, est appliquée au langage, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse avec le sophiste. Et le langage est donc comparé à une image, donc vous voyez, au sens où j'ai essayé d'expliquer, à une trace, hein, quelque chose qui fait signe. Il évoque quelque chose d'absent, comme une empreinte, comme la trace d'une existence. Et la vérité, c'est l'authenticité ou la conformité de cette empreinte à un modèle absent. Donc, il faut reprendre le texte à peu près en 260b, au moment où donc, il l'applique au langage. C'est plutôt la fin du sophiste. Alors, on va essayer de montrer maintenant que ce qui est faux se trouve dans le discours et dans le jugement. Donc, il vient de montrer que le faux pouvait exister, avec les images, etc., la peinture. Il faut maintenant montrer que ça existe aussi dans les mots, qu'il y a donc une existence du non-être, quelque chose comme ça, à l'intérieur du langage. Donc, il commence par nous dire, voilà, il y a différentes façons de parler. Si je dis, par exemple, « marche, cours, dors », ou bien si je dis « lion, cerf, cheval », les noms des agents des actions, cette théorie ne produira aucun discours. Ce que l'on a prononcé ne montre ni une action, ni une absence d'action, ni la réalité existence d'un être, ni d'un non-être. Donc je peux évidemment utiliser des mots qui ne veulent rien dire. Ça ne dit rien, ça ne fait aucun effet, je ne désigne rien. Il va en avoir besoin, bien sûr, parce qu'il a besoin de montrer que le faux existe. Donc la question du faux, c'est comment on peut dire quelque chose qui n'existe pas. Donc évidemment, si je dis lion, cerf, cheval, je ne dis rien, ça n'existe pas. Mais personne ne se trompe là-dessus, il n'y a pas d'erreur possible, il n'y a pas de faux à proprement parler. Mais le faux n'est possible que s'il y a un mélange du vrai et de l'être et du non-être, il y a un effet de vérité. Quand je dis lion, cerf, cheval, il n'y a pas d'effet de vérité, je ne dis rien en fait, ça, j'utilise des mots, mais je dis que des sons et ça ne dit rien. Donc ce n'est pas un discours. Un discours, c'est signifiant, donc ça désigne quelque chose. C'est ça qui est problématique, bien sûr, quand je vais dire quelque chose de faux, je désigne quelque chose. Et il faut bien que ça existe, sinon je ne pourrais pas me tromper. Donc comment c'est possible? Donc évidemment, on va être aidé par l'analyse, les analyses intérieures de l'existence du non-être, et particulièrement des fausses images que je viens d'évoquer. Donc il nous dit un petit peu plus loin, donc s'il y a un discours, ce doit être un discours qui porte sur quelque chose. Un discours qui ne porte sur aucune chose est impossible. Du moment qu'il y a discours, c'est-à-dire signification, ça porte sur une chose, il y a un effet de vérité. Et non pas, oui, c'est pas la même chose que de dire lion en cheval ou marche court d'or. Et pourtant, je vais te tenir un discours, lui dit l'étranger, et tu vas me dire quelle est la différence entre ces deux discours. Donc, tête est assis. C'est un discours, c'est une signification, ça désigne quelque chose. Bon, il lui dit, voilà, il commente, oui, c'est une longueur modérée, etc. Puis après, il lui dit, maintenant, est-ce que c'est différent de tête avec lequel je parle, vole? Alors, bon, évidemment, c'est... tête répond avec beaucoup de justesse, bah, l'un est, je pense, faux, alors que l'autre est vrai. Et le problème, bien sûr, c'est que c'est difficile de trouver la différence. Qu'est-ce qui fait que le discours en lui-même est le même? Sujet, verbe, complément. La vérité, comme on l'a dit tout à l'heure, elle va s'évaluer à la conformité du discours à quelque chose qui lui est transcendant. Ça paraît tout simple, puisque oui, c'est l'exemple d'une perception, hein, c'est pas compliqué. Donc, analyse, qu'est-ce qui fait qu'un discours est faux alors que l'autre est vrai? Qu'est-ce qui se passe dans le discours faux? Ben, on va appliquer ce qu'on a appris avec la sculpture, les statues. Eh bien, celui qui est faux dit quelque chose de différent de ce qui est. Oui, dit-elle. Il explique. C'est ainsi qu'il dit des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mais dire des choses qui ne sont pas, ce serait ne rien dire. On dit rien. On ne peut pas dire une chose qui n'est pas. On a un peu de mal à part dire rien. Je ne sais pas trop ce qu'on pourrait dire. Mais là, on ne dit pas quelque chose qui n'est pas. On dit quelque chose qui n'est pas comme si c'était. C'est exactement comme quand on fait une sculpture en trompe-l'œil. Donc il insiste, hein. Alors là c'est des traductions différentes, j'ai vérifié, c'est pas très facile de la traduction. Il dit à propos de toi des choses différentes mais qui existent réellement. Donc en fait il y a l'idée que le discours faux il dit quelque chose qui n'est pas ce qui est, il dit du non-être, mais ça n'est pas un rien, c'est comme si ça pouvait exister. Et donc, ça a l'air de se conformer à un modèle référentiel. Et on fait comme si on entend, quand on dit tête de vol, évidemment, on entend assez vite que c'est faux. Mais par exemple, si on disait, je ne sais pas, tête est brun, bon, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas, il y a une vraisemblance. On entend dans le discours une imitation. On suppose que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un modèle, un vrai tête qui est brun. Le discours, quel qu'il soit, vrai ou faux, mime quelque chose de réel, sauf que dans le discours faux, il mime le geste de mimer. Donc, on croit que c'est une image, mais ce n'en est pas une. En fait, il n'y a pas de modèle, si tes têtes ne volent pas, mais tes têtes volent, je le vois voler, par une image mentale, une illusion. Donc, il y a un tour de passe-passe, c'est que le discours faux, c'est celui qui fait comme s'il imitait, alors qu'il n'imite pas. Donc je vois, j'imagine, tes têtes volant, etc. Mais les mots signifient quelque chose qui n'existe pas, mais ils indiquent, ils font signe vers une existence qu'on peut croire réelle ou possible si on prend les mots pour des images, c'est-à-dire pour des paroles véridiques. Vous voyez, de tous les cas, le langage nous fait penser à quelque chose qui n'est pas présent. Toute la difficulté, c'est de savoir si cette chose existe ou n'existe pas. Donc, dans le cas du discours faux, ça ressemble à une réminiscence. Mais ce n'est pas une réminiscence, c'est une création. C'est poétique. Ça confirme ce que nous avons appris depuis le début, qu'il y a bien une puissance créatrice du langage. Ça donne raison à Protagoras, si on veut, mais en tout cas, ça ça permet de comprendre pourquoi Protagoras peut se tromper, parce qu'il y a en effet des effets de créateur poétique dans le langage, mais parce que la création, c'est une imitation de l'imitation. C'est une façon de se faire passer pour une imitation. C'est très intéressant sur les problématiques de la peinture, hein, et même de la peinture moderne qui se retourne contre la thèse de l'imitation, mais toujours en référence à l'imitation. La peinture contemporaine peut ne pas imiter en disant qu'elle ne veut pas imiter. Bon, et c'est la problématique reste celle de l'imitation. Attention, je n'imite rien, ceci n'est pas une pipe, etc. Donc, c'est ce que nous dit Platon, c'est qu'en effet, c'est une façon d'assumer de ne pas être une imitation, mais ça suppose quand même qu'on se soit fait passer longtemps pour une imitation, qu'on suppose que le regard qu'on porte sur une image, c'est d'abord sur une image, quelque chose qui est supposé désigner quelque chose. Donc, enfin, en tout cas, Platon ne parle pas ici du tout de la peinture, mais vous voyez, une sorte de symétrie. Protagoras critiquait la conception dualiste de la vérité de Socrate, mais il l'expliquait en même temps, en disant que Socrate était dupe. Et c'est l'hypothèse de Protagoras donnait raison en quelque sorte à Socrate, ou en tout cas expliquait la position de Socrate par une naïveté. Socrate était dupe de la création du langage. Mais on a la même chose, mais de façon symétrique ici. C'est Socrate qui explique la valeur créatrice des mots à partir de sa propre hypothèse imitative, de mimésis. La vérité est le reflet du réel dans les signes, et les mots peuvent mimer leur propre capacité mimétique. Quand ils créent, ils inventent, ils font passer des vessies pour des lanternes en fait, mais ils font voir des oranges bleues, vous voyez, des dieux lubriques, des héros irascibles, c'est la critique du théâtre dans la République, parce qu'ils puisent leur puissance créatrice dans l'essence mimétique du discours. On s'y croit parce qu'on croit qu'ils imitent les dieux. Ils suscitent leur modèle et ils font surgir du néant à partir de la postulation de leur statut d'image. Donc les mots sont capables de créer de faux concepts, par exemple. Et donc Protagoras peut avoir l'air d'avoir raison. Alors on a un peu avancé, mais il nous reste quand même quelques difficultés à résoudre. Puisque notre difficulté de départ, c'était de savoir comment, à partir d'une parole, c'est-à-dire à partir d'une image, comment je sais que cette image... c'est une copie et non pas une illusion. C'est-à-dire comment je peux avoir confiance dans ce qu'elle désigne, comment je peux être sûr qu'elle ressemble à un modèle, puisque je vais me tourner vers ce modèle. C'est le problème du mensonge, qui est très bien expliqué dans le passage de Rousseau, c'est sur les peignes cassées dans les Confessions, où il est accusé d'avoir cassé des peignes. Et oui, il dit la vérité, il dit non, j'ai pas cassé les peignes, et il n'est pas entendu. Il dit la vérité et elle n'est pas entendue. Alors, c'est le contraire d'un mensonge, il dit la vérité, mais c'est entendu comme un mensonge parce que le mensonge et la vérité, c'est indiscernable. C'est le même discours. Le mensonge se glisse dans le lit de la vérité. Il faut que les images imitent les images. Les images sont des images d'images, et du coup, le mensonge et la vérité sont absolument indiscernables. Sur le langage, c'est bien de relire ces textes-là, je pense, parce que c'est aussi tout le drame de la littérature. Rousseau écrit pour que la vérité soit enfin connue. Elle ne l'est jamais, elle ne peut pas l'être, s'il n'y a que les mots. C'est le problème du langage fictif, justement, du langage qui crée. Et Rousseau écrit une confession, il dit la vérité, mais on ne peut jamais l'entendre. Peut-être qu'en philosophie, on prétend avoir... des concepts qui désignent, qui sont des réalités, des idées, dit Platon, qui ne seraient pas simplement des créations du langage, qui ne seraient pas poétiques. Mais comment je peux être sûre quand même que je n'ai pas affaire à des chimères, à des choses pensées, mais que j'ai affaire à des réalités? Elles sont pensées en réalité, elles aussi. Mais ce n'est pas des réalités que les mots auraient produites. Oui, c'est ce que va dire Nietzsche, hein, le langage produit le je, l'illusion de la conscience, de la liberté, de la volonté, etc. Enfin, pas que le langage, bien sûr, mais tout ce qui l'accompagne. Tous les effets théoriques sont engendrés du langage et de la croyance. Donc, à quelles conditions je peux vraiment prendre au sérieux le verbe être quand il est employé dans un discours? Alors, Augustin nous dit, je le sais déjà, hein, d'une certaine façon, mais Est-ce que finalement je ne fais que croire? Est-ce que quand je fais de la philosophie, je crois? Est-ce que ce sont des fantasmes d'identité, de stabilité, de réalité? Est-ce que je sais par avance, mais qu'est-ce que je sais exactement? Qu'est-ce que m'apprend cette langue philosophique? Est-ce qu'elle me l'apprend? Est-ce qu'elle m'y fait croire? Et de quel être me parle le verbe être? En fait, qu'est-ce que j'apprends ou qu'est-ce que je crois apprendre? Si le verbe être est une image, si on lui donne ce crédit d'être une image conforme, qu'est-ce que j'apprends exactement? Donc, c'est ce que le sophiste essaye de penser en partie. Je ne suis pas sûre d'avoir trouvé la solution, mais je vais tenter d'expliquer en partie ce qu'on peut peut-être comprendre. Alors d'abord, comment on distingue un verbe être qui dit vrai d'un verbe être qui ferait semblant de dire vrai et qui ferait semblant d'être l'image de l'être? Alors, on peut penser d'abord qu'il doit bien exister un discours vrai qui imite l'être, en le disant, un discours mimétique, puisqu'il existe un discours faux qui produit ce qu'il raconte. Ce qu'a montré Platon au passage, c'est que le discours poétique a comme condition le langage philosophique. C'est là-dessus qu'il l'emporte sur Protagoras, comme je viens de l'expliquer. Parce que le mensonge utilise les propriétés de la vérité pour imiter, pour mentir, ou pour tromper. Quelque chose, c'est pas forcément un mensonge, c'est peut-être simplement faux. Vous voyez, l'art n'est peut-être pas un mensonge à proprement parler, mais c'est une fiction. Eh bien, il faut feindre d'imiter. Donc, il faut que l'imitation soit possible et qu'elle préexiste. On prend le langage pour une imitation parce que c'est son essence de signifier un modèle. C'est déjà une réponse importante. Mais dans Le Sophiste, à la fin, le sophiste est indiscernable du philosophe parce qu'il imite la dégaine du philosophe. Il n'imite pas ce qui fait le philosophe, auquel cas il serait philosophe, c'est-à-dire de l'effort pour connaître les réalités éternelles. Il n'est pas constitué par la recherche de la vérité, mais il fait comme s'il l'était, il imite l'image du philosophe, c'est-à-dire voyez comment le philosophe parle, comment il se tient, il se donne l'air du philosophe, dans son apparence. Donc, Protagoras ou d'autres, bien sûr, peut toujours créer des concepts, forger des représentations à partir des mots dont on imagine le modèle, et on peut penser peut-être que le langage philosophique lui-même est peut-être entremêlé d'image du verbe être. Donc, mais toujours le discours créateur emprunte à la puissance mimétique du discours et même de la pensée. Il imite donc, mais il imite pas ce qu'il faut. Le langage, le concept peut être forgé, il y en a toujours, mais en fait, ce n'est pas un concept. Il a juste l'air de l'être. Donc, par exemple, les dieux, le modèle est faux dans la République. Les dieux que nous peignent les tragédies ou les représentations théâtrales sont faux, ils n'existent pas. Mais on croit qu'ils existent parce qu'ils sont à la place du modèle. Et on a affaire à un spectacle qui se présente comme une imitation de la réalité, la mise en scène est constituée comme une imitation, tout est arrangé comme si c'était une mimésis, et c'est pour ça qu'on peut créer. C'est-à-dire faire croire que les dieux sont ainsi, mais la création se glisse dans la structure de l'imitation. Sinon, elle ne créerait rien, puisqu'elle serait incapable de faire ce geste de désignation, il n'y aurait pas d'image, il n'y aurait pas d'illusion. Donc, il doit bien exister un être réel s'il existe des êtres qui font semblant d'imiter ces êtres réels. Une image, elle est toujours, bien sûr, elle a un statut très fragile, hein, puisqu'elle n'est pas son modèle. Elle est faite de non-être, justement. Donc, c'est facile de renverser les choses et de se faire passer pour une image, d'un modèle qui n'existe pas, d'une image qui n'est même pas une image. Double existence d'une non-être. Donc, que nous apprend le verbe être si on le prend au sérieux et si on suppose qu'il existe une faculté mimétique du langage? Que me dit sur l'être le verbe être? C'est-à-dire le jugement assertorique, quand je dis... Or, on peut supposer que d'abord l'image m'est donnée. Et même si je dis bien que le verbe être ne sert qu'à me rappeler ce qu'est l'être, en fait, qu'est-ce qui me rappelle? La question ne change pas vraiment. Donc, les mots nous font penser à quelque chose qu'on sait déjà. En fait, ce que veut dire la réminiscence, vous voyez, c'est que les mots nous font penser. C'est tout ce que ça veut dire. C'est une réminiscence, déjà. Ils font penser à cause de la... Enfin, c'est une réminiscence si ça nous fait penser à cause de leur statut d'image. Hein, sinon, c'est une création poétique. Ce que je sais déjà, le savoir qui anticipe sur tous les savoirs, c'est d'abord cette capacité à lire les mots comme des signes, c'est-à-dire comme des choses qui n'en sont pas. Ça s'apprend pas d'une certaine façon. Hein. C'est la capacité de l'intelligence, de la pensée. Quand je vois une image comme image, eh bien, j'ai affaire à quelque chose que je ne considère pas comme une chose, mais comme ce qui n'est pas ce qu'elle dit. L'image, c'est ce qui s'efface devant ce qu'elle désigne. Et l'intelligence, c'est cette capacité de le savoir d'avance, d'aller chercher une transcendance. Il est possible, c'est ce qu'on Descartes dit des animaux, qu'on ait affaire à un son comme un son, à une trace sur le papier comme une trace sur le papier. La capacité à penser à partir de quelque chose, la capacité qu'une pensée soit rappelée à partir d'une chose, c'est une capacité propre, peut-être à l'esprit, et ça s'apprend pas. Donc c'est d'abord ça la réminiscence. Vous voyez, c'est dans le Phédon, il donne l'exemple du chapeau, je crois, ou la lyre. C'est la lyre de Simmias qui me fait penser à Cébès, parce que Simmias, c'est l'amant de Cébès. Donc vous voyez, c'est ça une réminiscence. Je vois quelque chose et ça me fait penser à autre chose. C'est un signe. Et un signe, il est bien sûr toujours différent de ce qu'il désigne. Et il se pense dans cette différence. Ça m'y fait penser, mais ce n'est pas forcément une ressemblance étroite. Mais ça m'y fait penser précisément parce que je ne prends pas la chose pour ce qu'elle paraît. C'est-à-dire une chose. Mais pour un signe d'autre chose. Donc cette capacité à traverser le signe, c'est d'abord ce qui est cette espèce de mémoire de l'éternité dont disposerait l'esprit ou l'âme. Donc si les mots sont des signes, c'est qu'ils ne sont pas ce qu'ils disent exactement, enfin qu'ils ne s'identifient pas avec ce qu'ils disent, ils parlent toujours d'autre chose que d'eux-mêmes. C'est pour ça que Socrate dit que s'exprime mal, qu'il y a différentes façons de le dire, d'aborder les choses, on va se reprendre, etc. La pensée pense autre chose, et c'est la condition de sa vérité. Donc on a d'abord dans le sophisme toute une réflexion, c'est sur le parricide de Parménide. Il faudra admettre que l'être n'est pas tout, enfin tout n'est pas un. La formule de Parménide, c'est tout est un. Parménide se trompe parce que si tout était un, s'il n'y avait que l'être et rien d'autre, pas de variation, pas de mouvement, eh bien on pourrait pas parler, puisque les noms et les choses seraient la même chose. Il y aurait un seul être, la chose, ou un seul être, son nom, et on ne pourrait déjà pas la désigner parce que c'est déjà deux choses différentes. Donc on ne pourrait pas penser, on ne pourrait pas parler si l'être était tout, s'il n'y avait que de l'être. Parménide doit se tromper, sinon le nom et la chose colleraient au point qu'il ne se passerait rien, on ne pourrait pas penser. Donc pour qu'il y ait de la pensée, il faut qu'il y ait de l'air, et il faut qu'il y ait une distance entre le signe et l'être qu'il désigne. Donc les mots parlent à propos de quelque chose. Les mots ne désignent pas au sens où on croirait que c'est une capture. Il y a l'image de la pêche à la ligne. Les mots, ils ne vont pas à la pêche à la ligne de ce qu'ils désignent. Ils en parlent, ils sont à distance, et il faut les prendre pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire il faut les prendre pour autre chose que des sons. Donc c'est la distance mimétique qui sauve la vérité. Première condition, il faut qu'il y ait une distance, une non-identité. Ça, vous le trouvez dans le passage, c'est en 244b à peu près, jusqu'en 245d, le passage où il critique la thèse, le tout est un, je crois que c'est ça que j'ai noté, de Parménide, en disant, mais si tout était un, on ne pourrait rien dire, on ne pourrait même pas employer un nom. Et est-ce que l'être, quand je dis être, j'ai déjà dit autre chose que l'être qui est, donc soit je me tais, et Parménide ferait bien de se taire. Donc, maintenant, regardons d'un peu près ce qui se passe quand on emploie le verbe être. Par exemple, dans l'exemple de la réminiscence du Phédon, où il utilise l'exemple des cailloux. C'est les cailloux sont égaux. C'est dans le Phédon. Qu'est-ce qu'on dit exactement quand on dit les cailloux sont égaux? Oui, alors dans le Phédon, il nous dit, ça nous fait penser à l'égalité en soi, etc. Parce que quand je dis les cailloux sont égaux, je ne dis pas les cailloux sont l'égalité même. Je dis que les cailloux, quand je dis que les cailloux sont égaux, je dis justement qu'ils ne sont pas égaux. Enfin, plus exactement, je dis qu'ils ne sont pas l'égalité. Ils sont égaux, mais ils ne sont pas tout à fait l'égalité. Donc on entend que dans le verbe être, il n'y a pas une identité. Les termes ne se superposent pas. Il y a une distance entre les cailloux et l'égalité. Ce n'est pas la même chose. Ça ne peut pas être la même chose. Le verbe être n'est pas une relation d'identité. C'est la thèse du sophisme, mais il le dit en fait déjà dans le Phédon. C'est-à-dire que je dis quelque chose qui me fait penser à autre chose. L'égalité des cailloux me fait penser à une autre égalité en soi, et que l'égalité des cailloux reflète, qui en est l'image, qui en est, qui ressemble. Donc les cailloux ont part à l'égalité. Voilà ce que veut dire le verbe être. C'est la thèse de la participation. Mais du coup, vous voyez, le verbe être, qui unit les termes, dit aussi bien que les cailloux ne sont pas l'égalité. Alors je ne le dis pas, mais je l'entends en fait. C'est ça que nous dit ce passage. Il nous dit, même sans m'en apercevoir, sans avoir lu Platon ni Descartes, puisque Descartes dit la même chose dans le morceau de cire, je ne regarde pas les choses comme des choses. Sinon, je verrais l'égalité même, enfin je ne pourrais pas penser. Je vois dans les cailloux une image de l'égalité, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble mais qui ne l'est pas tout à fait, qui est à distance mais qui m'y fait penser. Ça me fait penser, mais ça n'est pas l'égalité que je pense. Donc, les cailloux illustrent ma pensée, ils en sont l'image, d'où la thèse de du monde sensible comme image, mais ce n'est pas parce que, je ne sais pas, Platon d'emblée aurait décidé que ça n'a pas de valeur ontologique, etc. C'est parce que quand je vois quelque chose, ça me fait penser. Il y a même thèse chez Proust, les sensations ne sont pas des sensations, ce sont des signes. Et je vois une ombre derrière la haie, ça me fait penser à des hommes. Mais j'ai pas vu des hommes, j'ai jamais vu un livre. Je vois du vert, je vois un truc un peu défoncé, je vois des variations de couleurs, et je dis c'est un livre, mais personne n'a jamais vu le livre. Je ne le vois pas avec ma vue, je ne le vois pas avec mon toucher, ni avec mon odorat. J'ai des variations sensibles que j'identifie comme un livre. Autrement dit, je vois ces sensations comme des signes de quelque chose que je pense. Le livre, il est pensé. Son identité, je crois le toucher, mais... C'est tout ce que dit Platon, il dit rien d'autre. Les idées, elles ne sont pas toutes seules dans leur coin. Elles existent parce que je les pense, parce que je pense quand je vois quelque chose. Et donc, le verbe être, tout ça pour dire que le verbe être ne désigne pas un rapport d'identité, mais une participation qui fait que le verbe être désigne une relation. C'est ça l'idée, c'est que les termes sont liés. Alors après, il va nous dire, c'est compliqué dans le sophisme, il y a toutes sortes de relations, il y a différentes sortes. Mais une relation, c'est qu'une chose n'est pas ce qu'elle est, elle est autre chose, enfin, ou plutôt, elle est ce qu'elle est par autre chose qu'elle n'est pas. Il y a toujours une dimension de non-être dans n'importe quel être. Il y a toujours, alors, ça revient à dire que toute détermination est une négation en réalité, hein, c'est cette thèse-là, mais toute détermination est une négation, toute chose est dans son être déterminée par une négation d'autre chose. Donc, je ne pense pas l'être comme une saturation de l'être. Le verbe être philosophique ne nous dit pas que l'être est. Ça, c'est la thèse de Parménide. Elle est fausse, dit Socrate, parce qu'on n'a plus qu'à se taire. Enfin, c'est pas Socrate qui parle, c'est l'étranger. On n'a plus qu'à se taire. Et l'être, il est pensé dans le sophisme comme un réseau de relations. Alors, des relations nécessaires, hein, il faudra les suivre dans leur ordre. Ce qui veut dire que... les êtres sont ce qu'ils sont dans la mesure où ils sont une mesure d'être, ils ne sont pas autre chose. Aucun être n'est total. Chaque réalité est constituée par un champ de possibles dont elle est la négation. Alors, vous voyez, d'une certaine façon, ce qu'on est en train de chercher, comment est-ce que je peux être sûr que cet être que je conçois, quand je dis quelque chose et que j'utilise le verbe être, ressemble à ce mot. Qu'est-ce qui me dit? Oui, c'est l'idée que c'est la structure de la langue, de la grammaire, qui correspond à la structure de l'être. C'est la thèse d'Aristote qui se prépare dans le Sophiste. Et si les mots n'étaient pas des images, c'était des fictions. Et on cherche en fait le Dieu garant des vérités éternelles et les dieux garants de la caution de mes idées innées de chez Descartes. C'est ça qu'on est en train de chercher. Comment je sais quand je pense que je pense vrai? Alors, on n'a pas évidemment chez Platon, dans le Sophiste, on n'a pas de Dieu, rien d'équivalent à l'idée de Dieu. Même l'être, c'est un des genres, et il est mélangé à d'autres genres. Il n'est pas seul, il n'est pas supérieur, il n'est pas un. Il communique avec les autres genres. Donc la réminiscence, il ne faut pas l'entendre comme une révélation. C'est pas, il tombe pas, il n'y a rien qui tombe du ciel. L'être n'est connu que par relation. Et même dans la réminiscence, hein, ce que me revient en mémoire, ce qui serait resté inconnu si quelque chose de ressemblant, une image, ne m'y avait pas fait penser. Donc il suffit que j'ai affaire à quelque chose que j'identifie comme une image pour que je sois dans la réminiscence, il suffit que je vois quelque chose comme une trace pour que je pense. Donc, en quoi est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait se rapprocher de Descartes, ou en tout cas, qu'est-ce qui peut nous aider à penser la véracité de notre idée de l'être? Vous voyez, chez Descartes, on a les idées finies requièrent qu'elles soient créées et même recréées par le recours de Dieu. Donc, l'idée de Dieu permet de saisir tout objet comme fini, au point même que le moi qui se connaît comme fini ne peut se connaître tel qu'à condition d'avoir l'idée de l'infini. Et même à la fin de la troisième méditation, l'idée de Dieu, dit Descartes, il écrit que est la marque du créateur sur son ouvrage, et il dit que cette marque n'est même pas différente de cet ouvrage même. Donc ce qui veut dire que la pensée qui se pense et qui se pense comme finie est le signe de l'infini. Elle fait signe vers l'infini parce qu'elle se reconnaît comme finie. Donc le savoir de la finitude relève d'une capacité à lire les choses comme des signes. Donc Platon ne dit pas ça, bien sûr, parce qu'il n'y a pas l'idée de Dieu, mais on a la même transcendance, le mouvement de transcendance qui est le mouvement de la pensée. La pensée connaît chaque essence de telle sorte qu'elle est renvoyée à d'autres essences pour la connaître, comme si elle était l'indice d'autre chose que soi. Il va falloir comprendre de quoi elle est la négation pour comprendre une essence. Pour la connaître, pour la définir. Et il y a l'idée qu'on ne définit pas en attrapant cette essence comme à la pêche à la ligne. Tout se passe comme si chaque essence dépendait d'un réseau de relations, ce qui suppose que la pensée parcourt ces liaisons, ces relations, de façon à ne jamais stagner dans une essence. Donc le verbe être, c'est l'idée que le verbe être, puisqu'il n'exprime pas une identité, cette espèce de superposition d'une chose à elle-même. Il y a un passage où il critique ceux qui pensent que pour dire vrai, il faudrait dire l'homme est homme. Vous le trouvez en 251C. Il y a des théoriciens à l'époque qui pensaient que le langage disait jamais vrai parce qu'il décalait les choses, et il faudrait dire, la seule chose qu'on pourrait dire, c'est l'homme est homme, le caillou est caillou. Bon. Évidemment, on ne dirait rien du tout. La thèse de Platon, c'est que pour dire quelque chose de contraire, il faut dire quelque chose de différent, qui a part A, mais ça implique du coup, et il le dit très clairement en 257b, il nous dit que quand on dit que Socrate, que quelque chose est grand, on ne dit pas le contraire de ce qui est petit. On dit la négation d'un tas d'autres qualités possibles. Donc, ce n'est pas la négation d'un autre terme, c'est la négation de tout un champ de possibles. N'importe quelle essence est une détermination sur le fond d'un dehors indéterminé. Le passage, je vous le lis rapidement, il commence à être tard. C'est en 200, j'ai noté en 257b, à peu près, hein. Oui, c'est ça. Il nous dit... Lorsque nous parlons du non-être, nous ne parlons pas, semble-t-il, de quelque chose de contraire de l'être, mais seulement d'une autre chose. Comment, dit-elle, quand nous disons de quelque chose qu'elle est non grande, ne te semble-t-il pas que cette expression révèle plus le petit que l'égal? Pourquoi en serait-il ainsi? Or, il ne faut pas donner notre accord lorsqu'on dit que négation signifie contraire. Admettons seulement que non et ne pas, placés devant les noms qui les suivent, indiquent quelque chose de différent de ces noms. Donc, quand je dis non grand, je ne dis pas petit, je dis aussi bien moyen, etc. Donc, si je dis Socrate est chauve, je dis aussi bien qu'il est non chevelu, mais non brun, non hirsute, etc. Donc, une série de déterminations possibles. Donc, de choses différentes, mais non pas contraires. Donc, il n'importe quelle essence, en fait, ouvre à d'autres essences possibles. Et penser cette essence, c'est aussitôt en sortir. On ne pense qu'à la condition, c'est de nier ce qu'on affirme. Sinon, on ne pourrait pas le penser. Donc, vous voyez, la relation ontologique, pour une essence, désigne un domaine de définition qui suppose son dépassement, qui suppose donc ce mouvement de transcendance qui est celui de la pensée. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que chaque essence est comme l'image d'autres essences. Ce n'est pas le mot, parce que ce n'est pas ce qu'il nous dit, c'est une relation. Mais il y a l'idée qu'il y a une sorte de champ horizontal de transcendance pour tout être qui force la pensée à un mouvement de quête, de pérégrination illimité. Donc, toute détermination suppose une multiplicité d'autres déterminations possibles qui ont part à sa définition. Et donc, l'être est fractionné, il se parcourt pas à pas. Il est insaisissable dans sa totalité, je pense que c'est fondamentalement la thèse de Platon. Et la relation, c'est quelque chose qui détend, qui dilue la concentration de l'être. C'est précisément ce que dit le verbe être. Donc, on n'a pas l'idée de Dieu, mais on a un système de renvoi, de désignation qui fait miroiter chaque idée comme un indice d'autres idées. Si je pense, je ne m'arrête pas. Et ça, il le dit dans le Sophiste. Hein. C'est quand on a la conclusion, on a cessé de penser. La pensée est, vous savez, définie comme un désir chez Platon, désir de la vérité, et le désir dans le banquet, dans la dernière partie du banquet quand Socrate parle, c'est cette puissance de dépassement, il ne s'arrête jamais, il n'y a pas de stase du désir dans son objet. Donc la vérité ne stagne pas dans une idée, ni dans la totalité de l'être, ni dans une idée particulière. On la trouve jamais quelque part comme dans un réservoir. Aucune idée de la vérité même. La vérité est dans ce mouvement de la pensée qui s'arrache à une idée pour penser sa négation. C'est ce mouvement de chasser, en quelque sorte, qui permet de connaître. Donc, toute pensée se pense sur le fond d'une illimitation. Alors, c'est pas l'idée de Dieu, hein, mais il y a quand même quelque chose qui me paraît n'être pas sans analogie. Il y a une espèce d'horizon accessible à la pensée qui n'est pas épuisable par la pensée non plus. Elle peut parcourir chaque essence en particulier, mais il faudra toujours qu'elle recommence et elle ne saisit jamais la totalité. Donc pour conclure, d'abord, on a vu une chose peut-être importante sur laquelle on se trompe parfois, à savoir que Platon fait l'apologie de la mimésis, que toute la philosophie de Platon, c'est un éloge de l'image. Et donc, il s'agit de comprendre ce que c'est qu'une image, de donner son statut, de la penser. Et les images, les traces, c'est ce qui nous fait penser. C'est ce à l'occasion de quoi on pense. Et puis, d'autre part, le langage donc, dit la vérité à condition de ne pas la contenir rigoureusement, de ne pas la véhiculer. La dire, c'est ne pas l'être, d'abord. Être à distance de ce qu'on dit. C'est ne pas épouser ce qu'on dit, ne pas le saisir. C'est pour ça que la perception, ce n'est pas un modèle de connaissance. Parce que ça épouse l'objet. On ne dit la vérité que quand on désigne quelque chose susceptible de désigner par soi autre chose que soi. Le langage, lorsqu'il se constitue comme image, est susceptible de dire la vérité. Donc la vérité passe bien par les mots, hein, chez Platon, elle ne passe pas ailleurs. Mais oui, rigoureusement, elle ne se trouve pas dans les mots, elle n'est pas enfermée, ni localisable. Elle existe par cette capacité à susciter la pensée, à faire entendre ce que les mots disent, parce que tout se passe comme s'ils disaient en même temps qu'ils disent quelque chose, ils disent qu'ils ne sont pas ce qu'ils disent. Ils disent, je dis autre chose, je désigne. Ils font signe, ils s'effacent. Donc, bien sûr, les mots ne disent pas toujours la vérité. À cause de ça, justement, ils peuvent mentir, ils peuvent dire des espérances, des menaces, des regrets, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas. C'est un autre mode que l'indicatif. Mais ils sont quand même faits pour dire la vérité. C'est leur essence. Et ils nous font toujours entendre la vérité, même quand ils mentent. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. Jusque dans le mensonge, ils nous font entendre la vérité parce que la pensée, il lit son désir. Elle a, en réalité, ce que nous dit Platon, il n'y a pas l'idée de Dieu pour suturer tout ça, mais il y a l'idée que la vérité existe dans la mesure où on la désire. Sinon, on n'expliquerait pas qu'on lise quelque chose comme une image, qu'on entende le verbe être comme une relation. C'est que la pensée cherche l'objet de son désir, c'est-à-dire ce qui est toujours au-delà de ce qu'elle, du lieu où elle se tient. Donc, est-ce qu'il faut faire confiance au verbe être? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment le savoir? Est-ce qu'on peut faire confiance à son reflet dans la langue? Bon, les mots, peut-être nous font-ils seulement croire en l'existence d'identités stables, de substances, des réalités invisibles qu'ils désignent. Mais on voit mal, alors on peut avoir une hésitation, je crois qu'elle existe chez Platon, peut-être qu'on ne fait qu'y croire. Et en un sens, peut-être que le désir, il fabrique son objet. Soit il y a un désir qui est l'indice de l'existence réelle de son objet, soit peut-être il finit par espérer son objet au point de se l'inventer. Mais on voit mal comment on pourrait croire quand même, on pourrait croire quoi que ce soit si la pensée ne lisait pas dans le discours la vérité, c'est-à-dire si elle ne lisait pas ce geste de désignation, d'imitation, dans le vocabulaire grec, c'est la mimésis. Donc la pensée va à l'être, elle fait dire l'être au langage en le constituant comme une espèce d'image. Donc l'être, c'est l'objet de la quête de la pensée et s'atteste en son désir. Ça revient à faire du verbe être un signe authentique. Voilà, je m'arrêterai là.
Merci beaucoup Emmanuel. Bien, une courte pause et puis on aura un temps d'échange.